Bonjour à tous et merci de m'accueillir ici. C'est avec plaisir que je viens parler de Nietzsche et du gai savoir en particulier. Alors, le gai savoir, je vais d'abord dire deux, trois petites choses un peu générales sur cette œuvre et la place de cette œuvre dans l'œuvre de Nietzsche. Et puis ensuite, je me concentrerai peut-être davantage sur le livre 4, puisque j'imagine qu'il y a des étudiants ici en prépa scientifique et qui sont plutôt intéressés par ce livre-là, sachant que c'est un livre très important dans le gai savoir, mais je ferai quand même quelques incursions dans d'autres livres, notamment dans le livre 3, puisque dans le livre 3 se trouve formulée la pensée de la mort de Dieu, qui est quand même au cœur du gai savoir et à laquelle le livre 4, les aphorismes du livre 4, ont sans doute pour vocation de répondre à cette nouvelle de la mort de Dieu. Alors, le gai savoir, c'est vraiment un texte qui a une position particulière, une place particulière dans l'œuvre de Nietzsche, qui se trouve, on pourrait dire, en plein cœur de cette œuvre, puisque le gai savoir clôt une période que Nietzsche appelle parfois la philosophie de l'esprit libre. Enfin, il a un néologisme en allemand, Freigeisterei. Bon, la traduction n'est pas évidente. Si on traduit littéralement, ça donne « esprit librerie », ce qui n'est pas très heureux. Donc on pourrait traduire par « philosophie de l'esprit libre ». Cette philosophie de l'esprit libre qui commence avec « humain trop humain » et qui se clôt avec le gai savoir. Hein, donc « humain trop humain », c'est-à-dire le premier volume, ensuite « opinion et sentence mêlée »,« le voyageur et son ombre »,« aurore », puis le gai savoir. Ça formerait une espèce d'ensemble qui aurait une unité, et puis ensuite on passerait à autre chose. Alors Mazzino Montinari, l'un des grands interprètes de Nietzsche, et puis surtout celui qui a dirigé l'édition scientifique de Nietzsche en italien et en allemand d'abord, la grande édition, avec Giorgio Colli, Mazzino Montinari propose de distinguer dans l'œuvre de Nietzsche trois périodes en fait. Dans la première période, c'est ce qu'on appelle parfois la métaphysique d'artiste, autour de la naissance de la tragédie, avec ensuite les considérations inactuelles. Puis vient la philosophie de l'esprit libre, hein, avec humain trop humain, jusqu'au gai savoir. Et puis la dernière philosophie de Nietzsche, Mazzino Montinari propose de l'appeler la philosophie de Zarathoustra. Voilà. Le gai savoir, c'est vraiment l'articulation des deux dernières périodes distinguées par Montinari. C'est-à-dire, c'est l'aboutissement de la philosophie de l'esprit libre, c'est le texte par lequel Nietzsche va clore cette période, et en même temps, c'est l'annonce aussi, comme Nietzsche d'ailleurs le dit lui-même dans Ecce Homo, hein, c'est l'annonce de quelque chose d'autre qui est la philosophie de Zarathoustra. Hein. Zarathoustra qui apparaît d'ailleurs dans le gai savoir, puisque le dernier aphorisme du quatrième livre du gai savoir, qui s'intitule Incipit tragoedia, met en scène Zarathoustra. Ce qui a dû être d'ailleurs, si on y réfléchit un peu, très énigmatique pour les premiers lecteurs du gai savoir, qui évidemment n'avaient pas entendu parler d'Ainsi parlait Zarathoustra, et qui, à la fin de la première édition du gai savoir, dans le dernier aphorisme, voit apparaître ce personnage que rien ne laissait présager dans ce qui précédait l'œuvre de Nietzsche. Voilà, donc c'est un texte qui a une place particulière, et dans le gai savoir apparaissent certaines des pensées qui vont vraiment être parmi les plus importantes de la philosophie de Nietzsche, hein, et autour desquelles d'autres pensées vont graviter, autour desquelles on peut dire que toute la philosophie de Nietzsche va d'une certaine manière se réorganiser. La première de ces pensées, c'est la pensée de la mort de Dieu, hein, qui se trouve notamment formulée dans l'aphorisme 125, donc au cœur du livre 3, et également dans le premier aphorisme du livre 3, l'aphorisme 108, hein, donc il y a la pensée de la mort de Dieu, et puis la pensée de l'éternel retour, qui est aussi une pensée très importante, hein, dans la philosophie de Nietzsche, et qui apparaît, qui est formulée pour la première fois officiellement dans l'aphorisme 341, donc l'avant-dernier aphorisme de la première édition du gai savoir. Alors, Je voudrais dire aussi, avant d'entrer de manière un peu plus précise dans le texte du Gai Savoir, je voudrais dire quand même un certain nombre de choses élémentaires sur l'écriture de Nietzsche et sur le type de texte auquel on a affaire quand on ouvre le Gai Savoir. Il est convenu d'appeler ce texte un recueil d'aphorismes. Qu'est-ce que c'est qu'un aphorisme ? Sachant évidemment que Nietzsche n'a pas écrit que des aphorismes. Il a écrit à peu près tout ce qu'il était possible d'écrire en philosophie, et d'ailleurs il a aussi écrit de la poésie, de la musique, enfin, il y a chez lui une grande diversité stylistique. Le Gai Savoir, c'est peut-être le recueil d'aphorismes par excellence. Les recueils d'aphorismes, on les trouve en particulier dans la philosophie de l'esprit libre, d'humain trop humain au Gai Savoir. Ensuite, il y a des textes qui ressemblent à des recueils d'aphorismes, comme Par-delà bien et mal, par exemple, mais c'est moins rigoureusement des aphorismes que dans la période qui précède. Et le Gai Savoir, c'est sans doute le texte dans lequel Nietzsche a porté le plus loin, a conduit le plus loin sa virtuosité philosophique et rhétorique et son art de l'aphorisme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un aphorisme ? Il y a une chose peut-être qu'il faut dire, parce que sur cette question-là, on lit et on entend beaucoup de choses parfois un peu contradictoires. Un aphorisme n'est ni un paragraphe, ni un fragment. Alors évidemment, tout dépend du sens qu'on donne à ces mots-là. Mais j'entends par paragraphe ici l'élément d'un système, d'un discours qui est organisé de manière systématique. Comme la critique de la raison pure, par exemple. Quand on voit le plan de la critique de la raison pure, on comprend tout de suite que le texte a été construit, qu'il y a une architecture, qu'il y a une organisation du texte qui est extrêmement rigoureuse et très contraignante. Il y a chez Nietzsche une volonté très nette de ne pas écrire de cette façon-là, de ne pas écrire de système. Voilà. Donc, un aphorisme n'est pas un paragraphe. C'est-à-dire que les aphorismes ne s'enchaînent pas comme les différents moments d'une argumentation, d'un raisonnement, dont on pourrait suivre le fil conducteur de la première page à la dernière page du Gai Savoir. Mais un aphorisme n'est pas non plus un fragment. Alors, qu'est-ce que j'entends ici par fragment ? Par fragment, j'entends une pensée qui serait détachée de tout contexte, qui pourrait être interprétée, abstraction faite, de toute référence possible à un quelconque contexte d'interprétation. Il y a un commentaire de Nietzsche, qui est très célèbre, qui date de la fin des années 70, qui a été écrit par un philosophe français important qui s'appelle Jacques Derrida, dans un petit livre qui s'intitule « Éperons les styles de Nietzsche ». Dans ce petit livre, Derrida s'empare d'un fragment, précisément, un fragment posthume, c'est-à-dire une petite note que Nietzsche avait écrite dans l'un de ses cahiers, qu'il n'a pas publié. C'est pas un aphorisme comme l'aphorisme 341 du Gai Savoir, par exemple. Et on a publié les fragments de Nietzsche, les fragments posthumes. Donc il s'est emparé d'un fragment de la période du Gai Savoir, d'ailleurs. Ce fragment, c'est « J'ai oublié mon parapluie ».« J'ai oublié mon parapluie » avec des guillemets. Et il dit, cette phrase, il est impossible de l'interpréter. Il est impossible, en tout cas, d'être sûr de l'interprétation qu'on en propose, parce qu'elle n'a aucun contexte. Et c'est d'ailleurs le cas de tout texte, sans doute. En l'absence radicale de contexte, un texte devient rapidement inintelligible. Et Derrida propose de généraliser finalement à tout texte de Nietzsche. C'est-à-dire qu'un aphorisme fonctionne exactement comme un fragment, tout fragment fonctionnant comme ce fragment-là, j'ai oublié mon parapluie, et Derrida en conclut une espèce de thèse sur le caractère radicalement inintelligible des textes de Nietzsche. En tout cas, sur le caractère indécidable de ces textes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider de l'interprétation qu'on en propose. Il y a toujours une forme d'indétermination et de contingence. je pense que c'est pas une bonne manière de présenter les choses. Et qu'au contraire, il y a dans l'écriture aphoristique, enfin dans le choix de cette écriture, il y a la volonté de construire un texte qui a une cohérence, qui n'est pas exactement la même cohérence qu'un texte de Kant, par exemple, mais qui a néanmoins une cohérence. Alors, c'est d'autant plus important de maintenir cette exigence que Nietzsche l'a formulée très souvent. Vous avez dû, en lisant Nietzsche, rencontrer des textes dans lesquels il s'interroge sur la manière de le lire. Et il propose des métaphores, ou il propose des concepts pour essayer de définir l'art de lire en général et l'art de lire Nietzsche en particulier. Il y a notamment un certain nombre de métaphores, bon je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il y a par exemple une métaphore qui apparaît dans Le Voyageur et son ombre. Il dit qu'un aphorisme c'est comme une petite graine sur laquelle on peut se casser les dents, mais qui peut aussi, si elle tombe dans une terre suffisamment riche et fertile, qui peut aussi donner des plantes tout à fait intéressantes. Il dit également, autre métaphore qui apparaît, la métaphore des boulettes qu'il faut ruminer. Alors ça, c'est une métaphore très célèbre. Nietzsche compare le bon lecteur, c'est dans la préface d'Aurore, il le compare à un ruminant. Rumination, on va dire, au sens précis du terme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de mâcher longtemps le texte, mais il s'agit surtout de le remâcher. La rumination, c'est ça. C'est le fait de faire repasser en bouche ce qui a déjà été en partie avalé. Le texte nietzschéen est un texte qui s'offre à la rumination. Et puis, troisième métaphore qui apparaît dans Le Gai Savoir, dans l'aphorisme 381, celle du bain froid. Nietzsche dit « j'entre dans les problèmes comme dans un bain froid ». Alors il faut y entrer, c'est pas facile, et plus le problème est épineux, plus il est difficile d'entrer dans l'eau, mais en même temps un bain froid c'est un bain dans lequel on ne s'éternise pas, vite entrée, vite sortie. Voilà ce que dit Nietzsche. Alors si on prend au sérieux ces trois métaphores, l'art de lire Nietzsche, il me semble, peut se résumer à trois principes qui peuvent sembler contradictoires, mais qui en fait définissent des exigences complémentaires. Il y a un premier principe que j'appellerais le principe de découverte. Le principe de découverte, c'est que on ne lit pas Nietzsche comme on lit Kant, par exemple, c'est-à-dire que la lecture de Nietzsche s'apparente toujours à une forme d'aventure. C'est pas un voyage organisé, avec un plan, avec des haltes obligées, vaut le détour, vaut le voyage, etc. Comme dans le guide Michelin, on n'a pas ça avec Nietzsche. On a des aphorismes et on est libre de circuler plus ou moins comme on veut dans le texte. Et le texte est une exploration et une aventure. Ce sont de petites graines dures. On peut se casser les dents sur le texte de Nietzsche. Mais, dans certaines circonstances, et le hasard ici sans doute joue un rôle déterminant, ces petites graines dures peuvent donner des plantes tout à fait intéressantes. Deuxième principe, un principe de lenteur. Alors, lenteur ici, peut-être moins au sens où, encore une fois, il faudrait lire lentement, mais au sens aussi où il faut lire et relire. Et l'aphorisme a, on pourrait dire, une corpulence qui se prête tout à fait à la relecture. Un texte comme l'aphorisme 341 que j'évoquais tout à l'heure, c'est un texte qui est relativement court, c'est un texte qui est tout à fait facile de lire, de relire et de relire encore, parce que son gabarit, son format s'y prête particulièrement. Et puis ensuite, un troisième principe que j'appellerais le principe de vivacité. Une lecture qui est héroïque, principe de découverte, une lecture qui est philologique, la philologie étant l'art de lire les textes comme on les lit quand on fait du latin ou du grec et qu'on s'arrête sur les mots et, de manière extrêmement rigoureuse et précise, et puis une lecture dynamique. Et ces trois principes définissent un art de lire Nietzsche qui est assez exigeant en fait. C'est pas facile de lire Nietzsche. Alors, peut-être que vous en êtes rendu compte. C'est pas facile de lire Nietzsche. Et ce que j'essaye de dire ici, c'est qu'il n'y a pas pire malentendu que celui qui consiste à penser que Nietzsche est un penseur contradictoire, que Nietzsche dit tout et son contraire. Que dans tel aphorisme on trouve une thèse et puis dans un autre aphorisme il va dire exactement le contraire. Voilà, c'est ce que pense Derrida. Et c'est à mon avis une erreur. C'est-à-dire que pour reprendre l'interprétation de Derrida, un aphorisme, en fait c'est un texte qui peut être plus encore qu'un paragraphe, suppose la référence au contexte. Parce que précisément l'aphorisme peut être déplacé. Il a une certaine autonomie. Pour les prépas scientifiques, c'est le cas aussi des poèmes, des contemplations, qui sont post-datés, qui sont placés dans un ordre très particulier. Il y a exactement la même chose. Les aphorismes de Nietzsche, quand on s'intéresse aux manuscrits et à la genèse de l'œuvre, par exemple du Gai Savoir, on se rend compte que Nietzsche a passé beaucoup de temps à réfléchir à l'ordre dans lequel il allait disposer ses aphorismes. Il a passé beaucoup de temps à les écrire, à les retravailler, à les reprendre, voilà. Mais il a passé également beaucoup de temps à composer son recueil de manière à ce que tel aphorisme soit à telle place précise dans son livre. Il y a des manuscrits dans lesquels on voit qu'il numérote tous les aphorismes, et puis il fait vraiment des listes avec des numéros 1, 3, 7, 9, c'est des copier-coller en fait, pour essayer d'organiser au mieux la suite de ces aphorismes. Donc il accordait une importance particulière à cette question-là. Vous voyez, si on reprend la distinction que j'opérais tout à l'heure entre l'aphorisme et le fragment c'est de la pensée qui est éparpillée et inachevée. Un aphorisme, on pourrait dire que c'est au contraire une pensée qui est ramassée et concentrée. Mais sa concentration a aussi une, enfin, n'exclut pas que le texte soit aussi en relation avec les autres aphorismes. Et il y a, sans doute vous avez dû vous en rendre compte, il y a d'innombrables liens, d'innombrables relations entre les aphorismes, notamment du Gai Savoir. C'est un texte qui est particulièrement construit, particulièrement tissé, et il y a beaucoup de petites passerelles ou d'échos d'un texte à l'autre. Il y a un écho qui est, enfin, il y a une construction qui revient tout le temps, c'est l'écho entre le premier aphorisme et le dernier. Premier aphorisme du Gai Savoir, dernier aphorisme du Gai Savoir, premier aphorisme de chaque livre du Gai Savoir et dernier aphorisme également de chaque livre. Pour le livre 4, il y a un écho très net entre l'aphorisme 276, Amor Fati, je veux ne plus être qu'un homme qui dit oui, aimer le destin, etc. Et puis les deux derniers aphorismes. Le 341 avec la pensée l'éternel retour et le 342 avec le début d'Ainsi parlait Zarathoustra. Pourquoi ? Parce que Zarathoustra, ça va être le maître de l'éternel retour, celui qui enseigne l'éternel retour, et l'éternel retour, c'est une pensée qui va me permettre de mettre à l'épreuve mon amour du réel. Si j'aime suffisamment la vie, c'est le vœu que fait Nietzsche dans l'aphorisme 276, je peux désirer son éternel retour. Si la pensée de l'éternel retour me désespère, c'est que je n'aime pas suffisamment la vie. Donc il y a un rapport essentiel entre l'aphorisme 276 et la fin du livre, le début et la fin du livre 4. De même, on peut faire on peut faire l'essai sur n'importe quelle séquence, notamment du livre 4. De même, les aphorismes qui s'enchaînent entretiennent toujours une relation les uns avec les autres. Il y a toujours un petit thème, une image, une idée qui permet de comprendre comment on passe d'un aphorisme à un autre. Voilà, sur l'écriture aphoristique. Alors, peut-être pour dire les choses autrement et pour utiliser un concept qui apparaît plutôt dans le livre 5 du Gai Savoir, on pourrait dire qu'un aphorisme, c'est une perspective. Nietzsche, on dit souvent que c'est le penseur du perspectivisme. Un aphorisme, c'est une perspective, c'est un point de vue. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que deux perspectives ne peuvent pas se contredire. C'est pas possible. Le principe de contradiction qui a été formulé par Aristote, il suppose que la contradiction a lieu en même temps, au même sujet et sous le même rapport. Ça, c'est fondamental. Deux prédicats contraires ne peuvent pas être dits du même sujet en même temps, au même sujet et sous le même rapport. Donc, ça exclut qu'on change de perspective. Si je change de point de vue, ce n'est plus sous le même rapport. Ce n'est plus au même rapport. Ce n'est peut-être pas non plus au même sujet. Donc, le changement de perspective empêche la contradiction. Pour dire les choses encore différemment, les perspectives, elles s'excluent les unes les autres, mais elles ne se contredisent pas. Elles s'excluent les unes les autres parce qu'il y a dans chaque perspective quelque chose qu'on ne trouve pas dans les autres perspectives, quelque chose qui est radicalement singulier. Et en même temps, tout en s'excluant, elles s'impliquent. C'est-à-dire que quand on a adopté une perspective, on a envie d'en adopter d'autres. Quand on a vu la montagne depuis le bas de la montagne, on a peut-être envie de se rapprocher du sommet. La logique du perspectivisme fait que chaque perspective peut inciter à en adopter d'autres, et invite à en adopter d'autres. Et c'est peut-être ça la cohérence d'un recueil d'aphorismes. C'est-à-dire que dans chaque aphorisme est adoptée une perspective qui, à la fois, est singulière. Nietzsche dit sans doute dans chaque aphorisme quelque chose qu'il ne dit pas exactement de la même façon dans les autres aphorismes, mais en même temps, les autres aphorismes permettent aussi d'adopter d'autres perspectives qui entretiennent un rapport intéressant avec le premier aphorisme. Voilà. Bon, on reparlera peut-être de cela tout à l'heure. Alors, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que parfois, les perspectives, ce ne sont pas des aphorismes, mais c'est à l'intérieur du même aphorisme qu'on va trouver un changement de perspective. Il y a des cas qui sont tout à fait nets. Il y a notamment dans le livre 4 du Gai Savoir, à plusieurs reprises, une espèce de pirouette à la fin du texte. Et tout à coup, il y a un changement de perspective qui est très surprenant. Regardez par exemple l'aphorisme 278. Dans l'aphorisme 278, qui est consacré à la pensée de la mort, il dit les hommes sont comme des gens qui vont prendre un bateau, qui vont faire un grand voyage, des émigrants, et la veille du grand départ, ils font la fête, ils s'étourdissent et ils se divertissent et ils oublient complètement ce qui va se passer le lendemain. C'est une grande métaphore pour essayer de décrire cette inconscience ou cette insouciance des hommes qui ne se soucient pas de la seule certitude, c'est-à-dire qu'un jour ils vont mourir. Ils ne pensent pas à la mort. Voilà, donc il y a tout l'aphorisme, ou presque tout l'aphorisme développe cette idée-là, et on se dit, bah, c'est un vieux thème, un thème antique, memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, etc. Eh bien, à la toute fin du texte, il y a une espèce de changement de perspective brutal, et Nietzsche tout à coup dit, mais je m'en réjouis. Et je veux contribuer à ce que les hommes, plutôt que de penser la pensée de la mort, pensent la pensée de la vie. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Peut-être que vous l'avez remarqué. Cette espèce de mouvement assez déroutant qui fait que le lecteur est un peu décontenancé et qui relève bien du perspectivisme. Voilà. Alors, le livre 4 du Gai Savoir. C'est un livre qui a une signification très particulière pour Nietzsche. C'est sans doute d'ailleurs ce livre, l'écriture de ce livre, qui a décidé Nietzsche à écrire le Gai Savoir. C'est-à-dire que son projet initial était d'écrire une continuation d'Aurore. Aurore, c'est le livre qu'il a publié juste avant le Gai Savoir, qui était composé de 5 livres. Et il voulait composer une continuation d'Aurore et rajouter 5 livres aux 5 livres qu'il avait déjà écrits. Et puis, il y a un moment où, c'est sans doute dû d'ailleurs à la pensée de l'éternel retour qui est tombée sur lui, donc il a fait une espèce d'expérience presque mystique, hein. Et cette pensée de l'éternel retour dont il a compris l'importance et dont il s'est dit qu'il fallait absolument qu'il la formule de manière rigoureuse et précise, l'a décidé à, puisqu'il fallait la formuler, à écrire un nouveau livre, hein, qui va appeler le Gai Savoir, hein. Et le livre 4, Sanctus Januarius, Saint Janvier, c'est vraiment le livre qui était le plus important pour lui. Ça se voit dans sa correspondance, quand il envoie son livre à ses amis, il leur demande si le livre 4 est compréhensible, s'il est arrivé à communiquer ce qu'il cherchait à communiquer. Enfin, on sent qu'il y a toute une inquiétude autour de ce livre 4. Alors, ce qui est intéressant dans le livre 4, c'est que peut-être pour la première fois de manière aussi explicite et cohérente, Nietzsche s'efforce de construire, d'élaborer ce qu'on pourrait appeler une morale. C'est-à-dire qu'en général, le rapport de Nietzsche à la morale est un rapport que l'on considère comme un rapport plutôt négatif. On voit en Nietzsche le philosophe qui a critiqué la morale judéo-chrétienne, qui se présente comme une dynamite, qui a fait la généalogie du christianisme et qui a aussi écrit des pamphlets. Voilà. Donc on voit plutôt en Nietzsche un critique du christianisme et de la morale judéo-chrétienne et dans sa philosophie un rapport à la morale qui est plutôt négatif. Mais il y a aussi chez Nietzsche une philosophie morale qui consiste à élaborer, de manière, on pourrait dire, positive, une nouvelle morale. Cette morale qui constitue, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, qui constitue une sorte de réponse à la pensée qui est formulée au cœur du livre 3, c'est-à-dire la pensée de la mort de Dieu, la nouvelle de la mort de Dieu. La mort de Dieu que l'on assimile souvent à ce que Nietzsche va appeler plus tard le nihilisme, l'avènement du nihilisme. Alors qu'est-ce que c'est la mort de Dieu ? La mort de Dieu, il est convenu de dire que c'était en fait d'abord la mort de la croyance en Dieu. Quand Nietzsche dit Dieu est mort, ça veut dire que nous ne croyons plus en Dieu. Ou nous croyons de moins en moins en Dieu. Il y a une extinction de la foi, c'est-à-dire peut-être de manière un peu plus précise que Dieu n'est plus ce qui donne une valeur et un sens à notre existence. Ça, c'est quelque chose d'important si on veut bien comprendre l'affirmation de la mort de Dieu dans le Gai Savoir. Un Dieu pour Nietzsche, c'est toujours la justification d'une certaine forme de vie, d'un certain style de vie. Si Dieu ou si un Dieu vit ainsi, alors j'ai le droit de vivre comme lui. Ça, c'est vraiment, c'est au cœur du Gai Savoir, en particulier du livre 4. Dans l'aphorisme, alors je ne sais jamais, c'est le 283, non, c'est le 289, je crois. Il y a un aphorisme qui est consacré à cette question-là. Voilà. Si l'on considère qu'elle est fait la justification philosophique globale de sa manière de vivre et de penser. Se sentir en droit d'exister. Se sentir justifié. Bon, cette question de la justification, Nietzsche en hérite, elle vient du christianisme. La justification par la foi, par les œuvres, enfin, c'est un vieux thème qui remonte à saint Paul. Mais comment se sentir justifié? Eh bien, un Dieu, c'est toujours ça. C'est toujours d'abord la justification d'une certaine forme de vie. Il y a un texte ici qui est intéressant, c'est l'aphorisme 143. Qui s'intitule « Utilité majeure du polythéisme », dans lequel Nietzsche explique que la vertu du polythéisme, c'est d'autoriser une espèce de pluralisme dans la justification de l'existence. Il y a plusieurs normes possibles. Il n'y a pas un seul Dieu qui justifierait une seule forme de vie et qui, en justifiant cette forme de vie, dévaloriserait toute forme de vie qui ne parviendrait pas à imiter cette vie-là. Le grand avantage du polythéisme, c'est qu'il y a plusieurs manières légitimes, normales, on va dire, c'est le terme qu'utilise Nietzsche, de vivre, puisqu'il y a différents dieux. D'accord ? Mais qu'on parle du polythéisme ou du monothéisme, de toute façon, un dieu, c'est d'abord ça. Donc, si Dieu est mort, ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui justifie nos existences. Ça veut dire que nos existences, comme le dit Nietzsche dans l'aphorisme 125, nos existences ont perdu leur soleil. Notre monde a perdu son soleil. Le soleil, c'est ce qui éclaire, mais c'est aussi ce qui donne son ordre au système dans lequel nous vivons, au monde dans lequel nous vivons. C'est aussi le centre de gravité. C'est le sens. Le sens... on pourrait dire, à tous les sens du terme, quoi. Au sens de signification et puis aussi de direction, hein, d'ordre géométrique, quoi. Voilà. Donc, la mort de Dieu, c'est d'abord ça. Alors, si on reprend l'aphorisme 125, hein, qui est... C'est pas dans le livre 4, c'est dans le livre 3, mais c'est un aphorisme vraiment important, y compris pour comprendre correctement le livre 4. Qu'est-ce qui se passe dans l'aphorisme 125 ? On a un homme qui est présenté par Nietzsche comme un insensé. Dans la traduction de Patrick Votling, c'est un homme qui est dément. Il faut savoir que dans un premier temps, Nietzsche avait appelé cet homme Zarathoustra. Et puis ensuite, il a laissé de côté ce nom Zarathoustra, il l'a réservé pour l'œuvre qui allait suivre. Donc, un homme insensé, qu'est-ce qu'il fait cet homme ? Il se promène avec une lanterne sur la place du marché, en plein midi, et il dit « Je cherche Dieu, je cherche Dieu ». Et là, il rencontre des hommes qui explicitement sont désignés par Nietzsche comme des athées, donc des gens qui ne croient pas en Dieu, et ces hommes se mettent à se moquer de lui. Ah, tu cherches Dieu, mais où est-ce qu'il est ? Il s'est caché, il est parti. Et là, l'insensé se met en colère, l'homme se met en colère, et il leur dit, bah, Dieu, je vais vous dire, je le cherche parce qu'il est mort. Je ne le cherche pas, en fait, je sais qu'il est mort. Et s'il est mort, c'est que nous l'avons tué. Nous l'avons tué, et serons-nous à la hauteur de cet acte qui a des conséquences absolument terribles. Alors, qu'est-ce qui est important dans cet aphorisme ? Ce qui est important, c'est que Nietzsche n'annonce pas la mort de Dieu à des gens qui croiraient en Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une déclaration d'athéisme. Nietzsche ne dit pas ici, vous croyez en Dieu, eh bien Dieu n'existe pas. Vous vous trompez, c'est une illusion. Un discours philosophique assez ordinaire, assez traditionnel. Il s'adresse à des gens qui ne croient pas en Dieu. D'accord ? Il s'adresse à des gens qui sont athées, et il ne leur dit pas d'ailleurs Dieu n'existe pas, il leur dit Dieu est mort. C'est quand même un dispositif, un schéma assez étrange. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup, de dire à des hommes qui ne croient pas en Dieu que Dieu est mort ? Ça veut dire que précisément, si Dieu est mort, c'est qu'il a vécu. Donc, d'une certaine manière, il existe. Et c'est, on pourrait dire implicitement, ce qu'il essaye de révéler à ces hommes. Ces hommes qui ne croient pas en Dieu vivent comme une espèce d'évidence que Dieu n'existe pas. Comme si Dieu n'avait jamais existé. Comme si de toute éternité, Dieu était une abstraction et le produit de l'imagination des hommes. Ce que dit l'insensé du Gethsemane, c'est que d'une certaine manière, Dieu a existé. Il a existé pourquoi ? Parce que c'est lui qui donnait un sens et une valeur à nos vies. Et ce qui a disparu ici est quelque chose d'essentiel, d'absolument fondamental, dont les athées auxquels s'adresse l'insensé ne se rendent absolument pas compte. Alors vous voyez, ce qui est tout à fait fascinant en fait dans ce texte, c'est que finalement, les hommes à qui s'adresse l'insensé qui annonce la mort de Dieu, ils incarnent la mort de Dieu. C'est eux la mort de Dieu. Puisque la mort de Dieu, c'est le fait que les hommes ne croient plus en Dieu. Donc annoncer la mort de Dieu, donc que les hommes ne croient plus en Dieu à des hommes qui ne croient plus en Dieu, c'est d'une certaine manière leur tendre un miroir et leur dire voilà, je vous annonce à vous-même, j'essaye de vous révéler à vous-même ce que vous êtes. Voilà, ça c'est la première chose qui est tout à fait singulière dans ce texte. Et puis la deuxième chose, c'est que ces insensés, ces athées, ou plutôt cette nouvelle que l'insensé annonce à ces athées, cette pensée, son sens est moins dans son contenu que dans la réaction que cette pensée suscite. C'est-à-dire que, finalement, le fait que Dieu n'existe pas, ou le fait que Dieu soit mort, est moins important que le sens que cette nouvelle a pour nous. Vous voyez, ce que l'insensé essaye de faire comprendre à ces hommes, c'est que Dieu n'existe pas, très bien, S'il n'existe pas, c'est qu'il est mort et que nous l'avons tué. Mais si nous l'avons tué, alors nos vies sont complètement bouleversées. Et ces hommes-là ne s'en rendent pas compte. Et la question, c'est est-ce que nous parviendrons à être à la hauteur de cet acte ? Est-ce que nous pourrons répondre à cette espèce de question que nous pose la mort de Dieu, qui est, mais comment continuer à vivre s'il n'y a plus de source de valeur et de sens ? Comment continuer d'exister si Dieu est mort ? Si Dieu est mort, c'est-à-dire s'il n'y a plus rien qui, de manière transcendante, on pourrait presque dire objective, donne une valeur et un sens à notre existence. Voilà. Donc, il s'agit d'abord pour l'insensé de faire comprendre aux athées l'importance et la signification de cet événement. C'est d'abord ça qui compte pour lui. On va retrouver exactement la même structure pour l'éternel retour. C'est-à-dire que l'éternel retour, ça va être aussi une pensée dont le sens dépend entièrement de l'effet qu'elle produit sur nous. C'est-à-dire que le contenu de l'éternel retour, finalement, est secondaire par rapport à la manière avec laquelle nous recevons et nous vivons cette pensée, et par rapport à l'action que cette pensée est susceptible d'exercer sur nous. Voilà. Et vous voyez ce qu'on appelle nihilisme. Alors le nihilisme, traditionnellement on dit le nihilisme c'est le fait de ne plus croire au sens ou à la valeur ou à la finalité de l'existence. Le nihilisme, c'est moins la mort de Dieu en elle-même que le fait d'être incapable de donner un sens à cette mort de Dieu. C'est d'abord ça le nihilisme. Et ces athées qui rient, qui se moquent de l'insensé qui leur annonce la mort de Dieu, ces athées, en fait, ils incarnent vraiment le nihilisme. C'est-à-dire que plus rien n'a de valeur et de sens, pas même le fait que rien n'ait de valeur et de sens. Vous voyez, ils sont incapables de donner un sens à l'événement de la mort de Dieu. Le livre 4 du Gai Savoir, c'est une tentative pour donner un sens à cet événement et pour dire la vie n'a pas de valeur et de sens, tâchons de lui en donner un. Alors soit on considère que cette manière de réagir à la mort de Dieu consiste à lutter contre le nihilisme ou à dépasser le nihilisme, soit on considère que c'est une forme de nihilisme. C'est ce que dira plus tard Nietzsche, en fait. Nietzsche dira il y a deux nihilismes. Il y a un nihilisme passif qui consiste à subir la mort de Dieu, finalement, c'est-à-dire à passivement enregistrer l'absence de sens et de valeur de l'existence et à s'y résigner. Et puis il y a un nihilisme qu'il appelle extatique, qui est un nihilisme créateur, qui est actif, qui consiste, lui, au contraire, à dire, eh bien, la vie n'a pas de sens, donnons-lui en un. Tâchons d'instaurer un sens et une valeur dans l'existence. Il y a un aphorisme du livre 4 qui le dit, ce que je suis en train de dire, de manière un peu allusive, mais très nette. C'est l'aphorisme 299, ce que l'on doit apprendre des artistes. De quels moyens disposons-nous pour nous rendre les choses belles, attirantes, désirables lorsqu'elles ne le sont pas ? Et je suis d'avis qu'elles ne le sont jamais en soi. Vous voyez cette précision ? Et je suis d'avis qu'elles ne le sont jamais en soi, c'est la mort de Dieu. C'est on pourrait dire, le nihilisme. Enfin, une certaine version du nihilisme. Mais ça consiste à dire que, en elles-mêmes, les choses ne sont ni belles, ni attirantes, ni désirables. D'accord ? Mais vous voyez la manière avec laquelle Nietzsche, dans cet aphorisme, tente de répondre à cette nouvelle de la mort de Dieu. Elles ne sont ni belles, ni attirantes, ni désirables en elles-mêmes. Eh bien, cherchons les moyens de les rendre belles, désirables et attirantes. Et tout le livre 4 consiste à essayer de trouver ces moyens, de les élaborer et de les rassembler. Voilà. Alors, on va entrer maintenant dans ce livre 4 pour essayer de voir précisément comment, dans ce livre 4, Nietzsche essaye d'élaborer une morale qui permettra de réagir autrement que les athées de l'aphorisme 125 à la nouvelle de la mort de Dieu. Alors, il y a un aphorisme ici par lequel je voudrais commencer, qui pourtant se trouve plutôt au milieu du livre 4. C'est l'aphorisme 324. L'aphorisme 324, dans lequel il est question de ce que Nietzsche, depuis quelques temps, appelle sa nouvelle passion, c'est-à-dire la passion de la connaissance. Dès Aurore, il évoquait cette passion en disant que chez lui, la connaissance était devenue une passion. On va voir ce que ça veut dire. Dans l'aphorisme 324, qui s'intitule « In media vita », au milieu de la vie, dans cet aphorisme 324, Nietzsche va formuler ce qu'on pourrait considérer comme le principe même du gai savoir. Le principe du gai savoir, c'est que la vie peut être envisagée comme un moyen de la connaissance. La vie peut être envisagée comme une expérimentation. Il y a dans cette manière d'envisager la vie une sorte de renversement complet d'une certaine tradition philosophique qui remonte au fond à Platon. Ce motif de l'inversion du platonisme ou du renversement de la philosophie de Platon, on le trouve souvent chez Nietzsche. Mais ici, il a un sens très précis, c'est-à-dire que ce que l'on appelle l'intellectualisme chez Platon, c'est-à-dire le fait que la connaissance est d'une certaine manière la clé de la morale. C'est-à-dire que connaître le bien, c'est vouloir le bien. Je ne peux pas connaître le bien, le connaître vraiment, faire l'expérience du bien, sans immédiatement être bouleversé par cette expérience et sans vouloir le bien et sans chercher à le faire. Donc il y a une espèce de conversion qui est impliquée par l'expérience même de la vision du bien, la contemplation du bien. C'est ça qu'on appelle l'intellectualisme platonicien. Voilà. Donc, ici, chez Platon, vous voyez que la connaissance est d'une certaine manière le moyen de la morale. C'est-à-dire que connaître le bien, c'est ce qui va me permettre d'être vertueux, de faire le bien. Dans le gai savoir, le rapport est inversé. Enfin, on ne peut même pas dire que le rapport soit inversé. Il faut plutôt dire que la connaissance ne peut plus être considérée comme un moyen. La connaissance est devenue une fin en soi. La connaissance n'a pas pour but le bien. La connaissance est le but. Elle est une finalité en elle-même. Il y a un texte ici du Gai Savoir, qui n'est pas dans le livre 4, mais dans le livre 2, qui dit les choses de manière très précise, c'est l'aphorisme 123, la connaissance plus qu'un moyen. Dans cet aphorisme, Nietzsche reprend l'idée que la connaissance est une passion, et puisqu'elle est une passion, elle est devenue une fin en soi. En fait, il reprend ici une distinction qu'il a trouvée chez Stendhal. Dans De l'amour, Stendhal fait une typologie des différentes formes d'amour. L'amour vanité, l'amour plaisir, l'amour passion. Voilà. Et Nietzsche s'inspire de cette distinction pour opposer deux manières d'aimer la connaissance. Ouais, deux philosophies, au sens étymologique du terme. Deux manières d'aimer la sagesse ou la vérité ou la connaissance. Il y a ce qu'il appelle un amour plaisir ou un amour vanité de la connaissance. C'est-à-dire que j'aime la connaissance parce que la connaissance me rend heureux, ou j'aime la connaissance parce que la connaissance me permet de satisfaire un certain orgueil ou un certain narcissisme, me permet de m'imposer, d'exercer du pouvoir, etc. Ce serait un amour-plaisir ou un amour-vanité de la connaissance. L'amour-plaisir de la connaissance, c'est un amour qui consiste à aimer ce que l'on aime dans l'exacte mesure où ce que l'on aime nous donne du plaisir. Ça veut dire que dès que le plaisir n'est plus là, l'amour disparaît aussi. C'est l'amour des enfants. Un enfant, il aime le chocolat jusqu'au moment où il fait une indigestion et il n'aime plus le chocolat. Amour-plaisir du chocolat. Amour-plaisir de la connaissance, parce que j'aime la connaissance, parce qu'encore une fois, la connaissance me rend heureux. L'amour-passion, dit Stendhal, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que l'amour-passion, ça consiste à aimer même quand l'amour nous rend malheureux. Ça consiste à aimer et à tout sacrifier à ce qu'on aime pour pouvoir continuer d'aimer, donc pour pouvoir, comme le dit Stendhal, continuer d'être malheureux. C'est ça le grand paradoxe de la passion. Je suis prêt à renoncer à tout pourvu que je n'ai pas à renoncer à mon amour. Stendhal a vécu cette expérience. Stendhal analyse ce paradoxe en disant que l'homme passionné, il est malheureux, il est terriblement malheureux, et en même temps, il ne veut rien moins que redevenir indifférent comme il l'était avant de tomber dans la passion. Voilà. Et Nietzsche dit, la connaissance, maintenant, c'est devenu une passion. C'est-à-dire que on lui sacrifie tout. Quand on éprouve cette passion, on lui sacrifie tout. Elle est devenue la finalité. Elle peut nous rendre malheureux, mais en même temps, on verra qu'elle donne aussi un sens à notre existence. Voilà. Oui, c'est ça. Je dis en même temps ici, parce que c'est là que se joue aussi quelque chose de tout à fait intéressant, notamment par rapport au thème des prépas scientifiques sur la force de vivre. C'est-à-dire que ce que dit Nietzsche, c'est que dans la passion, la vie passe d'une certaine manière au second plan, puisque la vie n'est plus qu'un moyen, alors que la connaissance devient la finalité. Je ne connais plus pour vivre ou pour être heureux, mais je vis pour connaître. Je continue à vivre parce que dans ma vie, je trouve des expériences qui vont me permettre tout simplement de faire de la philosophie. Et c'est ça qui donne un sens à mon existence. Donc, ma vie passe d'une certaine manière au second plan. Je suis prêt à la sacrifier pour cette passion, qui est celle de la connaissance. Et en même temps, le fait que mon existence soit ainsi sacrifiée et passionnée, ça lui donne un charme qu'elle n'aurait pas sinon. Et c'est ce qui la rend, finalement, plus désirable, comme le dit Nietzsche, et plus mystérieuse. Regardez dans l'aphorisme 324, comment la pensée que la vie est un moyen de la connaissance est présentée. Non, la vie ne m'a pas déçu. Année après année, je la trouve au contraire plus vraie, plus désirable et plus mystérieuse. Depuis ce jour où la grande libératrice est descendue sur moi, cette pensée que la vie pourrait être une expérimentation de l'homme de la connaissance. Donc vous voyez, mettre sa vie au service de la connaissance, la sacrifier à la connaissance, c'est ce qui la rend plus vraie, plus désirable et plus mystérieuse. Donc c'est une manière en fait paradoxale de lui donner du sens. Voilà. De ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a un aphorisme du Gai Savoir qu'il est intéressant peut-être de convoquer ici rapidement. C'est le tout premier. Le premier aphorisme du Gai Savoir, dans lequel Nietzsche distingue deux grandes conceptions de l'existence. Il dit il y a une conception tragique de la vie, on pourrait dire presque une esthétique tragique, qui consiste à dire que la vie a du sens. La vie a du sens, elle a une valeur et elle mérite que l'on s'y consacre. Il faut trouver un but à l'existence et tout ça est très sérieux. Vous voyez, l'esthétique tragique consiste à prendre la vie au sérieux et à essayer de dramatiser l'importance certains aspects de son existence. Ça, c'est l'esthétique tragique. Et puis, il y a ce que Nietzsche appelle une manière comique d'envisager sa vie et qui, elle, consiste au contraire à rire de l'existence. À rire de l'existence, à rire de ceux qui prennent la vie au sérieux et à rire de soi-même quand on prend l'existence au sérieux. Et en fait, on voit bien dans le premier aphorisme du Gai Savoir que ce que Nietzsche envisage, c'est une espèce d'alternance des deux. Le Gai Savoir, c'est ça. C'est être capable de prendre sa vie tantôt au sérieux, tantôt au contraire d'en rire. D'avoir une esthétique tantôt tragique ou tantôt comique, ou un rapport tantôt tragique et tantôt comique à son existence. Vous voyez, il parle d'une loi du flux et du reflux à la fin de cet aphorisme. Et la passion de la connaissance, Ben, c'est vraiment une manière d'envisager sa vie qui est à la fois tragique et comique. Qui est à la fois tragique et comique parce que ça donne un sens à ma vie, c'est très sérieux. Je prends ma vie au sérieux, elle a de la valeur, elle a du sens parce que je la consacre à la connaissance, etc. Mais en même temps, la connaissance me permet aussi d'une certaine manière de rire de la vie, de la mépriser, de la sacrifier, de considérer qu'il y a quelque chose qui est plus important que la vie. Ben, c'est précisément la vérité, la philosophie. Donc, de mettre aussi son existence à distance, d'une certaine manière se placer au-dessus de son existence pour rire de soi-même. C'est peut-être le sens qu'on peut donner, enfin l'un des sens qu'on peut donner à l'idée d'un gai savoir. Une passion de la connaissance qui consiste aussi bien à rire de soi qu'à comprendre l'importance de certaines choses. Voilà. Alors, cette passion, ce gai savoir, cette passion de la connaissance, à la fois, on va dire, tragique et comique, elle va se formuler au tout début du livre 4, dans l'aphorisme 276, avec cette espèce de pirouette sur laquelle commence l'aphorisme et qui est une sorte de variation sur le cogito ergo sum de Descartes. Vous vous souvenez du tout début du livre 4 Nietzsche dit « Je vis encore, je pense encore, je dois vivre encore car je dois encore penser, sum ergo cogito, cogito ergo sum ». Oui, c'est bien le principe de enfin, c'est bien notamment le principe de la vie comme moyen de la connaissance. Je dois vivre encore car je dois encore penser. Si je dois vivre encore, c'est parce que je veux penser et c'est parce que ma vie est le moyen pour moi de penser. Et parce que ma vie est un moyen de la connaissance. Parce que cette connaissance est devenue une passion, parce que j'y consacre tout, parce que je veux penser. C'est l'objet de tout de ma volonté. Eh bien, je dois vivre encore. Voilà. Et ce qui est intéressant dans cet aphorisme, c'est qu'on trouve, comme dans l'aphorisme 324, l'idée qu'une pensée peut changer ma vie. Dans l'aphorisme 324, c'est le passage que je disais tout à l'heure, Nietzsche dit que la vie ne l'a pas déçu depuis que la pensée que la vie peut être un moyen de la connaissance est tombée sur lui, est descendue sur lui, comme il dit. Et c'est cette pensée qui a rendu sa vie plus désirable, plus vraie, plus désirable et plus mystérieuse. Donc une pensée, la vie comme moyen de la connaissance, rend la vie plus vraie, plus désirable et plus mystérieuse. Dans l'aphorisme 276, Nietzsche dit « Je veux dire moi aussi ce que je me suis aujourd'hui souhaité à moi-même et quelle pensée m'est venue à l'esprit la première cette année, quelle pensée doit être pour moi le fondement, la garantie et la douceur de toute vie à venir. » Oui, on retrouve ce rythme ternaire, plus vrai, plus désirable, plus mystérieuse. Ici, c'est le fondement, la garantie et la douceur. Pour dire les choses de manière plus conceptuelle, c'est le sens et la valeur de la vie. Quelle pensée va rendre à ma vie de la valeur et du sens, ou donne à ma vie de la valeur et du sens. Voilà. Ça, c'est un véritable fil directeur dans le livre 4 du Gai Savoir. Cette idée que certaines pensées vont donner à ma vie de la valeur et du sens. L'idée qu'une pensée a moins pour vocation de formuler une vérité que de transformer celui qui la pense et de donner un sens à son existence. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de la pensée de la mort de Dieu. Ce qui compte, c'est pas tellement le contenu de cette pensée, mais la manière avec laquelle on l'entend et on réagit à ce qu'elle nous dit. Donc, l'effet que cette pensée a sur nous. Pour l'éternel retour, c'est exactement la même chose. Le dispositif de l'éternel retour est d'ailleurs très clair. Nietzsche ne dit pas, il ne présente pas l'éternel retour comme une thèse. Il ne dit pas ce que vous avez vécu, vous allez le revivre éternellement à l'identique. Il dit « Que dirais-tu si, au fond de ta plus profonde solitude, un démon venait te visiter et t'annonçait la nouvelle de l'éternel retour ?» Vous voyez, cette question, elle est fondamentale. Ce qui compte, c'est pas de savoir si la pensée de l'éternel retour est vraie ou fausse. Ce qui compte, c'est de savoir comment je réagirai à cette pensée. Que dirais-tu si on te disait que ce que tu vis, tu vas le revivre éternellement à l'identique? Est-ce que cette nouvelle te désespérerait et tu te jetterais sur le sol, broyé par la perspective terrible de cet éternel retour? Ou bien est-ce qu'au contraire, c'est une nouvelle qui serait une bonne nouvelle pour toi et tu t'en réjouirais? Ça c'est vraiment quelque chose d'important dans le livre 4 du Gai Savoir. Et puis, ce qui est formulé dans l'aphorisme 276, dans le premier aphorisme du livre 4, c'est la mort fatie, l'amour du destin. L'amour du destin qui est vraiment le cœur, on va dire, de cette morale qui est élaborée dans le livre 4. L'amour du destin, c'est-à-dire le fait de dire oui, hein, comme le dit Nietzsche à la fin de l'aphorisme, de dire oui à la vie. Ne plus être, à partir d'un moment quelconque, qu'un homme qui dit oui. En allemand, ja sagen der. Un disant oui, hein, quelqu'un qui dit oui. Dans Ainsi parlait Zarathoustra, le oui va évidemment réapparaître, et notamment sous la forme de ce texte très célèbre des trois métamorphoses. Les trois métamorphoses avec le chameau, hein, qui porte, qui dit tudois, enfin le chameau du tudois, de la morale, etc., qui a vocation à se métamorphoser en lion, hein, le lion qui dit non, hein, le lion de la révolte, et le lion doit ensuite se métamorphoser pour se transformer en enfant, l'enfant qui dit oui. Hein, vous voyez, il y a une différence entre le oui du chameau et le oui de l'enfant. Le oui du chameau, le oui de l'âme. Dans Zarathoustra, il y a aussi un chant où c'est la fête de l'âne et où Nietzsche met en scène des ânes qui disent Ia. Ia en allemand, ça veut dire oui. Mais c'est un oui ici qui est un oui passif, qui consiste à subir le poids de la vie. Le poids de la morale, du devoir, etc. Le chameau ou l'âne, il porte. C'est une manière de dire oui. Mais ce n'est pas la manière avec laquelle Nietzsche nous demande de dire oui dans l'aphorisme 276. Ce n'est pas le oui de l'enfant. Le oui de l'enfant, c'est un autre oui. C'est un oui qui est vraiment la vérité de l'amour. Amor fati, amour du destin, le oui est indissociable de cet amour-là. C'est pas le devoir, hein, c'est l'amour. Alors, quelle est la différence? L'amour dans le Gai Savoir, chez Nietzsche, mais dans le Gai Savoir en particulier, l'amour, ça consiste à aimer la réalité telle qu'elle est. C'est ça qui est capital. Hein. C'est-à-dire que Nietzsche, dans certains textes, explique que l'amour, ou ce que l'on prend pour de l'amour, conduit parfois à s'aveugler, à avoir une sorte de représentation fantasmatique ou idéalisée de celui ou de celle qu'on aime. Et l'amour peut être le contraire de la connaissance et de la compréhension lucide de l'autre. Mais ce n'est pas cet amour-là dont il s'agit ici. Au contraire, l'amour dont il est question dans le livre 4 du Gai Savoir, quand Nietzsche nous dit qu'il faut aimer son existence, hein, aimer son destin, c'est un amour qui, au contraire, suppose la connaissance. Hein, tout à l'heure, je disais, la passion de la connaissance consiste à aimer la connaissance pour elle-même. Ici, l'amour, c'est la même chose que la connaissance. Hein. L'amour de l'aphorisme 276, c'est aussi l'amour de l'aphorisme 334, quand Nietzsche dit « il faut apprendre à aimer hein, », qui est un texte qui constitue vraiment une clé pour comprendre le livre 4. Dans ce texte, Nietzsche prend l'exemple de la musique. Il dit voilà ce qui se passe en musique. En musique, quand on aime vraiment une musique, cet amour est la conséquence de tout un processus que Nietzsche décrit comme un processus d'apprentissage. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand on entend pour la première fois une musique qui a vraiment une singularité, hein, pour nous, on commence par tout simplement ne pas l'entendre. C'est-à-dire qu'il faut d'abord faire un effort pour percevoir la mélodie, par exemple, de cette musique que l'on entend pour la première fois. Il faut d'abord apprendre à entendre. Et puis, quand on est parvenu à saisir la musique que l'on entend ainsi pour la première fois dans sa singularité, on est dans un premier temps en fait dérangé par cette singularité. Et dans un premier temps, on réagit de manière très négative. Disant, mais qu'est-ce que c'est que cette musique? C'est bizarre. Ce que Nietzsche appelle l'étrangeté de la musique. Et cette étrangeté commence par nous importuner. Et puis vient un troisième temps où on s'est habitué à cette étrangeté et où, alors que dans un premier temps on avait du mal à supporter la présence de cette musique, et bien maintenant on a du mal à en supporter l'absence. Cette musique nous manque et on l'aime comme on aime toutes les choses que l'on aime vraiment. Alors vous voyez, il y a deux choses intéressantes dans ce texte. Premièrement, l'amour qu'il s'agit ici d'apprendre, c'est pas du tout l'amour au sens philosophique du terme. C'est-à-dire que l'idée qu'il faille apprendre à aimer, ça peut être un thème très classique. Il y a plusieurs façons d'aimer. Regardez le banquet, par exemple. Il y a l'amour brutal, l'amour fou, l'amour qui nous rend esclaves, qui est incompatible avec la sagesse, qui est une aliénation, voilà. Et puis, il y a un amour qui serait, au contraire, un amour qui serait tout à fait non seulement compatible avec la sagesse, mais qui conduirait même à la sagesse, qui serait plus spirituel, plus maîtrisé. Vous voyez la distinction entre Eros et Agapé, par exemple. Voilà. Donc l'amour sage et l'amour fou. Et en philosophie, on a l'habitude de lire des textes qui nous disent attention, il faut apprendre à aimer, c'est-à-dire apprendre à aimer comme il faut, apprendre à se détourner de la passion aveugle et brutale, de la folie passionnelle, pour se tourner vers un amour qui sera plus sage, plus raisonné, plus serein, etc. C'est pas du tout ce que nous dit Nietzsche. L'amour qu'il nous demande d'apprendre, c'est l'amour fou. C'est un amour qui nous conduit à une aliénation. Puisqu'on ne supporte plus l'absence de ce qu'on aime, et on est devenu complètement prisonnier de cette passion. C'est vraiment la passion. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, ce qui est ici capital aussi, c'est que quand on aime vraiment, il faut avoir appris à le faire. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir appris à le faire? Parce que quand on aime vraiment, on aime ce qui, dans ce que l'on aime, est radicalement singulier. Autrement dit, on aime ce qui, dans un premier temps, ne peut que nous décontenancer, ne peut que nous importuner. Si j'aime vraiment une musique, c'est que j'aime en elle quelque chose que je ne connaissais pas avant de l'entendre et que je n'entends dans aucune autre musique. Ce que Nietzsche appelle l'étrangeté. L'étrangeté qui est à la fois l'altérité et la réalité. L'altérité de cette musique, mais ça vaut aussi évidemment pour quelqu'un, cette altérité, c'est d'une certaine manière le fondement même de sa réalité. On est sûr que là, c'est réel, parce que précisément, c'est différent de tout ce qu'on connaissait déjà. Là, je ne peux pas prendre mes désirs pour la réalité. Je ne peux pas reconnaître quelque chose que je connaissais déjà. Là, je suis vraiment... Vous voyez, c'est ce que dit Kant aussi. Le critère de l'expérience, c'est ça. C'est le fait qu'on ne peut pas l'inventer, quoi. C'est l'étonnement. C'est aussi ce qu'on trouve chez Descartes. Enfin, c'est finalement un thème assez classique. Mais si j'aime vraiment une musique, ça veut dire que j'ai appris à l'aimer. Les musiques qu'on aime tout de suite, ce sont des musiques dans lesquelles on aime, en fait, des musiques qu'on aimait déjà. Et dans lesquelles on reconnaît des choses qu'on aimait déjà. Et ces musiques-là, on s'en lasse sans doute beaucoup plus vite que les autres. Et Nietzsche dit, ce qui se passe en musique se passe dans tous les domaines. C'est de cette façon-là qu'on aime tout ce que l'on aime, y compris dans l'amour de soi. C'est aussi comme ça qu'on doit s'aimer soi-même. D'accord ? Donc, amor fati, aimer mon existence, c'est apprendre à l'aimer. C'est pas quelque chose qui me tombe dessus, qui m'arrive facilement, ça suppose tout un apprentissage. D'où les injonctions. Regarder ailleurs, que ce soit ma seule négation, je veux. Il dit je veux apprendre, d'ailleurs, de manière très claire. Je reprends le texte, page 276, tac. Je veux apprendre toujours plus à voir dans la nécessité des choses le beau. Je serai ainsi l'un de ceux qui embellissent les choses. Je veux apprendre. Ça, c'est vraiment un mot qui est important. Et tout le livre 4 consiste à se demander comment on peut apprendre à donner un sens à notre existence. Regardez le titre de l'aphorisme que je citais tout à l'heure, le 299, « Ce que l'on peut apprendre des artistes ». Voilà, donc cet amour de la réalité telle qu'elle est, pas une autre réalité qu'on projetterait sur la vie, hein, mais ma vie à moi, telle qu'elle se présente à moi, hein, dans sa singularité, dans ses aspérités, dans ce qui la rend aussi difficile. Vous voyez, Nietzsche était malade, il le dit bien dans la préface du Gai Savoir, et voilà, il faut aimer ça. Cette étrangeté d'une vie qui est celle d'un grand philosophe qui est en même temps extrêmement malade, il faut apprendre à l'aimer. Et c'est bien ce que Nietzsche est parvenu à faire. Voilà. Alors, il y a dans cet aphorisme, il y a un autre moment qui est assez aussi intéressant et peut-être un peu surprenant. Vous voyez, Nietzsche dit « Amor fati, que ce soit dorénavant mon amour, je ne veux pas faire la guerre au lait, je ne veux pas accuser, je ne veux même pas accuser les accusateurs, que regarder ailleurs soit mon unique négation. » C'est une formule qui est un peu étrange. Je ne sais pas comment vous la lisez, cette formule-là, mais quand on sait qui était Nietzsche, quel texte il a pu écrire, bon, la généalogie de la morale, c'est après le Gai Savoir, mais il y a vraiment chez Nietzsche la volonté de ne pas regarder ailleurs, de ne pas détourner le regard. Ça, c'est un thème qui revient très souvent, cette espèce de rapport héroïque à la vérité et de rapport non idéaliste à la réalité. Je veux voir, vous voyez ce qu'il dit dans l'avant-propos de la généalogie de la morale, ça sent pas bon. Mais moi, je suis allé respirer tout ça et j'ai compris ce qu'il y avait derrière les grands sentiments, les vertus, les valeurs de la morale judéo-chrétienne. Il y a des choses qui ne sont pas reluisantes du tout. Donc Nietzsche est vraiment celui qui ne veut pas détourner le regard, qui regarde la réalité en face et qui la critique, qui en fait la généalogie justement. Comment expliquer qu'ici ils disent « détourner le regard » ou regarder ailleurs. Ça paraît quand même assez étonnant, cette manière de procéder. Alors, il y a une clé peut-être pour comprendre cette formule, regarder ailleurs, c'est l'aphorisme 304. Dans l'aphorisme 304, Nietzsche explique qu'il n'aime pas ce qu'il appelle les vertus négatives. Des vertus négatives, c'est-à-dire des vertus qui consistent à renoncer à quelque chose, à renoncer volontairement et consciemment à quelque chose. Il oppose à ces vertus négatives une autre manière, on va dire aussi de renoncer, mais qui ne prend pas du tout la même forme. C'est-à-dire que on peut aussi parce que l'on s'affirme, parce que l'on se développe, parce que l'on change, parce que, comme dit Nietzsche, on devient ce que l'on est, c'est-à-dire qu'on se métamorphose, on peut aussi, à certains moments de son existence, constater que l'on a changé et que, d'une certaine manière, on ne fait plus certaines choses. Donc tout se passe comme si on avait renoncé à certaines choses. Mais en fait, on a renoncé à ces choses-là parce que tout simplement, on en aime d'autres. Parce que tout simplement, la passion conduit naturellement à une forme d'indifférence. Ça, c'est un thème que Nietzsche a trouvé chez Stendhal. Ce qui est vraiment caractéristique de la passion, c'est ce que Stendhal appelle la diaphorie, c'est-à-dire le fait d'être absolument indifférent à tout ce qui n'est pas cette passion. Le fait de regarder avec une distance considérable tout ce qui n'est pas exactement sa passion. L'homme passionné, ce qui le définit, c'est qu'il est indifférent à tout ce qu'il n'aime pas passionnément. Voilà. D'où la possibilité, évidemment, pour lui de tout sacrifier à sa passion. Et c'est cette indifférence aussi qui caractérise l'homme passionné. Cette espèce de distraction sublime de l'homme qui est concentré sur ses pensées et qui est indifférent absolument à tout le reste. Et vous voyez, cette indifférence passionnée, c'est une forme de résignation, hein, puisque, ou de renoncement, hein, pas de résignation, de renoncement. Hein. On renonce à bien des choses, mais c'est un renoncement qui n'est pas vécu comme un renoncement. C'est un appauvrissement qui n'est pas vécu comme un appauvrissement, mais qui est au contraire la conséquence d'une richesse supérieure. C'est parce qu'il y a en moi tant d'amour et tant de passion que tout ce qui ne parvient pas à s'incorporer à cet amour et à cette passion tombe naturellement, ou je le laisse naturellement tomber. D'accord ? Il y a un autre texte qui dit la même chose. C'est l'aphorisme 295, qui est, je ne crois pas me tromper, attendez, je vérifie, voilà, 295, brèves habitudes. Dans cet aphorisme, Nietzsche explique qu'il a horreur des longues habitudes. Une longue habitude, pour lui, c'est une tyrannie. C'est une tyrannie, c'est une contrainte, c'est une manière de se scléroser, voilà. Donc ce qu'il aime, c'est des habitudes brèves, changer d'habitude. Vous voyez, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec l'aphorisme qui est un bain froid, vite entrée, vite sortie. Une habitude, mais on en change régulièrement. Et il a une manière de décrire le changement d'habitude correspond tout à fait à ce que je suis en train de décrire ici. Hein, vous voyez, il dit « La bonne chose se sépare de moi, non comme quelque chose qui inspire désormais le dégoût, mais paisiblement et rassasié de moi comme je le suis d'elle. Et comme si nous devions être reconnaissants l'un envers l'autre. Hein. » Vous voyez, dans l'aphorisme sur les vertus négatives, le 304, il utilisait l'image de la feuille d'arbre. Hein, la feuille d'arbre qui se détache tout naturellement de l'arbre quand elle doit tomber. Exactement de la même façon, il y a des choses qui se détachent de moi parce que bah, je suis passé à autre chose. Et ici, la bonne habitude, c'est même pas moi qui me sépare d'elle, c'est elle qui semble se séparer de moi. D'accord ? Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, il y a beaucoup d'aphorismes dans lesquels, à la fin du texte, il y a une sorte de revirement. Ben là, c'est exactement le cas. C'est-à-dire que tout au long de l'aphorisme, il nous dit qu'il a horreur des longues habitudes qui sont sclérosantes, aliénantes, contraignantes, etc. Ce qu'il aime, c'est le changement d'habitude. Très bien. Et puis, à la toute fin, il dit « Mais le pire pour moi, ce serait de n'avoir aucune habitude du tout. L'improvisation permanente. » Ça, il dit « Ce serait mon exil et ma Sibérie. » En fait, on comprend pourquoi. Parce que l'habitude, c'est la même chose que l'amour. C'est exactement pareil. Voyez ce qu'il dit au début du texte. « J'aime les brèves habitudes et les considère comme le moyen inestimable d'apprendre à connaître beaucoup de choses et d'état jusqu'au fond de leurs aspects doux et amers. » Vous voyez, l'habitude, c'est la connaissance et l'amour. C'est la même chose. Avoir une habitude, c'est connaître quelque chose et l'aimer. Et changer d'habitude, ben, c'est changer de perspective. C'est précisément ça la passion de la connaissance, c'est passer d'une manière d'envisager la vie à une autre, hein, d'une perspective à une autre. Voilà. Donc, vous voyez, le regarder ailleurs, c'est peut-être cette indifférence passionnée que j'évoquais tout à l'heure. Je regarde ailleurs parce qu'en fait, je regarde ce que j'aime. D'ailleurs, le mot qu'utilise Nietzsche, c'est « wegsehen », qui veut dire littéralement « regarder au loin ». Regarder au loin, ça pourrait vouloir dire aussi « regarder de loin ». Regarder ailleurs, ça veut dire être à une telle distance de la réalité que elle ne me concerne plus aussi directement. Et que je peux l'envisager avec une certaine indifférence. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Hein. Je ne sais pas, je vais peut-être un peu vite ou non ? Non ? Très bien. Alors, on a passé un moment sur l'aphorisme 276. Il est peut-être intéressant maintenant de rapidement faire une incursion dans le dernier. C'est-à-dire l'aphorisme, enfin l'avant-dernier, l'aphorisme 300. Il faut que je m'arrête quand en fait.
Je suis libre.
Je suis libre. C'est d'accord.
Si on veut avoir un moment pour des questions, oui. On a 20 minutes pour des questions.
D'accord. Très bien. Bon, je me dépêche. Donc, faire une incursion dans l'avant-dernière aphorie, c'est-à-dire l'éternel retour que j'évoquais tout à l'heure. Je vous le disais tout à l'heure, cette pensée, comme la pensée de la mort de Dieu, c'est une pensée qui n'a pas exactement pour fonction de dire quelque chose sur la réalité. C'est pas une pensée qui a d'abord pour fonction de formuler une thèse. Et l'éternel retour, alors là, c'est mon interprétation. Il y a des commentateurs de Nietzsche qui ont une autre interprétation de cette pensée et on peut en discuter. Mais dans le Gai Savoir, il me semble qu'il y a vraiment moyen de défendre l'interprétation que je suis en train de développer. C'est-à-dire que ce qui compte pour Nietzsche, c'est pas de formuler une thèse qu'on pourrait dire cosmologique. Et de présenter l'éternel retour comme une sorte de théorie scientifique dont il pourrait éventuellement essayer de démontrer la validité. La fonction principale de cette pensée, et c'est pour ça qu'elle se formule avec ce dispositif si singulier que j'évoquais tout à l'heure, c'est plutôt de fonctionner comme une sorte d'exercice spirituel, au sens antique du terme. C'est-à-dire une pensée qui a d'abord pour vocation de transformer celui qui la pense. Et la pensée, ici, ça veut dire vraiment la pratiquer, cette pensée. Comme les stoïciens se répétaient que la vie était comme une pièce de théâtre, qu'ils n'en étaient pas les poètes, mais seulement les comédiens. Vous remarquerez que Nietzsche dit le contraire dans le Gai Savoir. Il dit nous sommes les poètes de notre existence, pas seulement les spectateurs ou les comédiens. Mais vous voyez, un exercice spirituel, c'est-à-dire que la fonction première de la pensée, je ne dis pas qu'elle n'a pas aussi une dimension, on va dire, épistémologique qu'elle ne consiste pas aussi à dire quelque chose sur le monde. Mais c'est secondaire. La fonction première, elle est, on pourrait dire, morale. C'est-à-dire qu'elle consiste à transformer celui ou celle qui la pense. Et ça, il me semble que c'est vraiment très important. Alors, si vous avez la curiosité d'aller lire les fragments posthumes, en fait, la pensée de l'éternel retour, on dit souvent que c'est une pensée posthume, parce qu'elle n'apparaît que très peu dans les textes publiés de Nietzsche. Et l'une des formulations les plus explicites, c'est l'aphorisme 341 du Gai Savoir. Ensuite, on va retrouver de manière très épisodique des références à l'éternel retour, mais pas de manière aussi claire et précise que dans le livre 4 du Gai Savoir. En revanche, il y a tout un cahier dans lequel Nietzsche a pris énormément de notes sur l'éternel retour. Un cahier qu'il a commencé, enfin qu'il a, il n'y a pas que des notes sur l'éternel retour, mais à partir d'août 1880, c'est-à-dire le moment où il y a eu la révélation de l'éternel retour, il y a vraiment beaucoup de notes consacrées à l'éternel retour. Et on voit que Nietzsche essaye de trouver dans les livres de science de son époque des justifications. Il s'intéresse à cette question-là. Il se dit, mais si cette pensée, elle avait une validité scientifique. Donc on voit qu'il lit beaucoup de choses, des textes de cosmogonie, de physique, d'astrophysique, etc. Mais on voit bien aussi qu'en fait, l'idée est toute simple. L'idée, c'est que si cette pensée de l'éternel retour pouvait s'appuyer en plus sur des théories scientifiques, il serait d'autant plus facile de se l'assimiler, cette pensée. Plus une pensée est vraie, plus d'une certaine manière, il est facile de se l'approprier et de la penser. Mais ce n'est qu'une stratégie pour favoriser l'assimilation de cette pensée. Il faut que je m'assimile la pensée de l'éternel retour, c'est-à-dire qu'il faut que je la pense sincèrement, vraiment, pour qu'elle me transforme. Ce qui compte, c'est qu'elle me transforme. Mais c'est vrai que si j'ai la caution, on va dire, de la science, cette assimilation va être favorisée. Mais si vous lisez les fragments posthumes, vous vous rendrez compte que les tout premiers fragments consacrés à l'éternel retour envisagent vraiment cette pensée comme une transformation existentielle. Et c'est d'abord ça qui compte. Et il y a même un fragment qui est très précis, dans lequel Nietzsche dit que même la pensée d'une possibilité, même si cette possibilité n'est pas avérée, même la pensée d'une possibilité peut nous transformer. Il suffit qu'il soit possible que ma vie revienne éternellement à l'identique. Il suffit même qu'il me soit possible de le penser. Le sens de cette pensée peut s'imposer à moi. Voilà. Alors, en tout cas, ce qui est clair, vous voyez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il y a deux manières d'envisager sa vie. Soit on la prend au sérieux, on essaye de lui donner un sens, soit on rit de son existence et c'est une esthétique plutôt comique. Là, la pensée de l'éternel retour, elle est clairement tragique. C'est pas un hasard si la pensée suivante s'intitule « Incipit tragoedia », que la tragédie commence. C'est le début d'Ainsi parlait Zarathoustra. Ce n'est pas un hasard si la formulation de la pensée de l'éternel retour précède un aphorisme qui s'intitule « Que la tragédie commence ». Parce que c'est une tragédie, la pensée de l'éternel retour. Pourquoi c'est une tragédie? Parce que cette pensée, elle vise d'abord à dramatiser l'importance de ce que je vis. C'est-à-dire que ce que je vis, je peux avoir tendance à le vivre d'une manière... en le vivant à moitié, en me disant « bon, c'est un mauvais moment à passer, c'est pas très grave, j'attends autre chose, j'espère autre chose, on verra demain, etc. Hein, » vous voyez, ce rapport à l'existence, ce rapport à soi, qui n'est jamais pleinement investi dans le présent de l'expérience. La pensée de l'éternel retour, elle rend ce genre d'attitude absolument impossible. C'est-à-dire que ce petit café que je bois, qui est un peu froid, qui est trop sucré, qui ne me plaît pas, et je le bois rapidement en me disant « bon, c'est pas si grave, j'en boirai un meilleur demain », ou ce moment que je passe, où je m'ennuie, où je me dis « bon, c'est pas bien méchant, j'attends le week-end et ma vie aura enfin du sens », ces moments-là, si on se dit qu'on va aller vivre éternellement à l'identique, on ne peut plus les vivre de cette façon-là. C'est absolument impossible. C'est-à-dire que ce que je vis et le moindre détail de mon existence prend une importance absolument infinie. Puisque ce détail, vous voyez, il dit ce clair de lune, cette toile d'araignée, ce tout petit élément biographique de mon existence, il va prendre un relief et une importance absolument considérable puisque... il va être aussi important pour moi que l'éternité. Je vais le revivre éternellement à l'identique. D'accord ? Donc, la pensée de l'éternel retour, elle dramatise l'importance de chaque moment de mon existence. Et elle m'oblige à prendre au sérieux tout ce que je vis. Est-ce que ce que je suis sur le point de vivre, je suis capable d'en désirer l'éternel retour ? Est-ce que j'aime suffisamment ma vie pour désirer l'éternel retour de tous les détails de mon existence? Voilà la question. Vous voyez, c'est une manière de dramatiser, encore une fois, de prendre au tragique son existence et de mettre à l'épreuve l'amour qu'on peut avoir de soi et de son existence. Donc, la mort fatie, dont Nietzsche formule le vœu dans l'Aphorisme 276, il va se trouver mis à l'épreuve par cette expérience cruciale qui est celle de l'éternel retour. Et je vais terminer là-dessus. L'éternel retour, pour éviter aussi un malentendu, l'éternel retour, ce n'est pas une pensée qui a une signification, on va dire, conservatrice. Oui, c'est une sorte de malentendu assez évident sur l'éternel retour. Tout revient éternellement à l'identique. Très bien. Il faut que j'aime mon existence, que j'aime mon destin, au point de désirer qu'il revienne éternellement à l'identique. Donc, on pourrait se dire que c'est une pensée qui vise à se contenter tout simplement de son existence. Donc, c'est le contraire d'une pensée qui chercherait à changer les choses, à faire la révolution. Vous voyez, on pourrait se dire qu'il y a une forme de, encore une fois, de conservatisme dans la pensée de l'éternel retour. En fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'idée chez Nietzsche que ma vie, je ne peux l'aimer et je ne peux désirer qu'elle revienne éternellement à l'identique que si cette vie est aussi une création. Je ne peux pas l'aimer et je ne peux pas supporter l'idée qu'elle revienne éternellement à l'identique si c'est une existence qui s'impose à moi comme le fardeau que porte le chameau ou l'âne de Zarathoustra. Ma vie, je ne peux supporter l'idée de qu'elle se reproduise éternellement à l'identique que si elle est ma création, que si elle est mon œuvre, que si j'en suis le poète. C'est la seule condition pour que je puisse la désirer. Alors là, il y a un fragment, tout à l'heure je vous parlais des fragments posthumes, hein, une petite note qu'on trouve dans un cahier de Nietzsche et qui n'a pas été publié, qui dit ce que je suis en train de dire de manière très très claire. Nous désirons sans cesse revivre une œuvre d'art, on doit façonner de telle sorte sa vie que l'on éprouve le même désir devant chacune de ses parties. Voilà la pensée capitale. Ce n'est qu'à la fin que la doctrine de la répétition de tout ce qui a existé sera développée, dès qu'implantée au préalable la tendance à créer quelque chose, qui, sous le soleil de cette doctrine, prospérera au centuple avec plus de vigueur. D'accord ? Donc ce n'est que si ma vie est vécue comme une œuvre d'art, hein, comme Nietzsche le dit si souvent, hein, ce n'est qu'à condition que ma vie prenne la forme d'une œuvre, dont je suis le poète, dont je suis le créateur, que cette vie peut être aimée comme un destin, que je peux imaginer en désirer l'éternel retour. Donc vous voyez, le destin, ce n'est pas la fatalité. Hein. Le destin, c'est quelque chose que l'on crée, en fait. Hein. Vous voyez ce que dit Nietzsche quand il dit « Je veux apprendre à voir la nécessité dans les choses comme le beau, je serai ainsi l'un de ceux qui embellissent les choses. Hein. » Donc il n'y a que quand on embellit les choses, que quand on crée de la beauté, que quand on rend les choses belles, quand elles ne le sont pas, que l'on peut aimer ces choses. Encore une fois, la pensée de l'éternel retour, pour bien la comprendre, il faut rappeler ça, et cette pensée de l'éternel retour, c'est plutôt au contraire l'idée que la vie est une création, hein, et non pas quelque chose qu'il suffirait de conserver. Voilà. Et là, alors là, il y a une série d'aphorismes consacrés à cette question. Tout à l'heure, j'évoquais le 299, ce que l'on peut apprendre des artistes, mais l'aphorisme qui est vraiment central, c'est le 290. Une chose est nécessaire, hein, dans lequel Nietzsche envisage vraiment la philosophie comme une manière d'inscrire sa vie dans un plan artistique, hein, et de lui donner un style, comme il dit, hein, pour parvenir à être content de soi-même. Voilà. Bon, il y a énormément de choses dont j'aurais aimé parler aussi, mais si vous voulez poser des questions, il faut peut-être que je m'arrête là. Hein. J'essaye en fait de circuler un peu dans le livre 4, de passer d'un aphorisme à un autre, mais il faudrait beaucoup de temps pour passer tous les aphorismes en revue. Mais c'est tout à fait possible en fait. Hein. Quand on explore les différentes possibilités d'interprétation d'un aphorisme, on va très souvent en chercher d'autres et il y a des relations qui se créent. Voilà. On peut continuer très longtemps comme ça, mais je vais peut-être m'arrêter là. Voilà. Si vous avez des questions, ben, je veux bien y répondre. Essayez d'y répondre. Oui. À l'autodiscipline. Et les détracteurs de sa vie. Être acteur de sa vie. Oui, oui. Alors, l'éloge de la discipline, ça surprend certains lecteurs de Nietzsche qui voient plutôt en Nietzsche, alors c'est souvent les lecteurs de Zarathoustra, hein, qui voient plutôt en Nietzsche un philosophe exalté, ou les lecteurs de la naissance de la tragédie, hein, ou de la période romantique et wagnérienne de Nietzsche. Quoi. Mais il y a vraiment chez Nietzsche un éloge de la discipline et même un éloge de la contrainte. Hein. Il y a un aphorisme de Part de là, bien et mal, qui s'intitule « Contrairement au laisser-aller », et dans lequel Nietzsche dit de manière très claire que la volonté de puissance, elle s'exerce d'abord sur elle-même. Vous voyez, la volonté de puissance, le schéma de la volonté de puissance, c'est que c'est une volonté qui veut le sentiment de la puissance, hein, et je ne sens la puissance que quand la puissance s'intensifie. Quand la puissance ne s'intensifie pas, elle n'est plus ressentie. On s'habitue à elle et on finit par ne plus la sentir. Donc, je ne peux me sentir puissant qu'à condition de me sentir plus puissant, et je ne peux me sentir plus puissant que si on me résiste, en fait. La puissance par excellence, c'est celle qui consiste à se résister à elle-même, celle qui consiste à s'imposer à elle-même un certain nombre de contraintes. C'est la raison pour laquelle Nietzsche n'est pas Caliclès. Vous voyez, il y a un malentendu qui consiste à assimiler le Caliclès de Platon à Nietzsche. C'est tout le contraire, hein, vraiment. Enfin, Nietzsche n'est pas non plus Socrate. Mais il n'est sûrement pas Caliclès. L'idée que la force consiste à s'abandonner à toutes ses passions et à la satisfaction de tous ses désirs, c'est pas du tout nietzschéen, ça. Voilà. Alors, ça, c'est une réponse générale que je vous ferai. Ensuite, il y a une réponse un peu plus précise à partir du gai savoir, et notamment de l'aphorisme 290. Dans l'aphorisme 290, Nietzsche commence par faire une sorte d'éloge de l'autodiscipline. Donner un style à son caractère, imposer un certain nombre de contraintes. Il dit « L'important, c'est pas que ce soit du bon goût, mais que ce soit la contrainte du même goût qui s'impose. » Voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Là, on a à nouveau cette espèce de revirement très caractéristique des aphorismes du gai savoir. Il dit « Mais ça, c'est pour les natures fortes. Mais il y a des natures qui n'ont pas cette force-là. Et pour ces natures-là, l'autodiscipline, c'est pas possible. C'est des gens qui arriveront pas à se dominer, à donner un style à leur caractère. Eh bien, eux, il faut qu'ils trouvent le moyen de concevoir leur existence autrement, mais malgré tout, d'être contents d'eux-mêmes. Hein, et dit, ces natures-là, elles vont plutôt s'interpréter comme libre nature. Il y a un aphorisme d'Aurore, l'aphorisme 560, où Nietzsche compare l'homme à un jardinier. Il dit on peut faire un jardin à la française, à la japonaise, à la chinoise, etc. Mais il y a aussi le jardin à l'anglaise, où il y a même une façon de jardiner qui consiste simplement à regarder pousser la nature et à dire que comme j'ai un beau jardin. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on soit content de soi, en fait. Voilà ce que dit Nietzsche à la fin de l'aphorisme 290. Une chose est nécessaire. Non pas donner du style à son caractère. Vous voyez, on aurait pu croire que c'était ça l'injonction de l'aphorisme 290. Durant tout le développement de l'aphorisme, on a le sentiment que c'est ça qu'il va dire. En fait, non. Une chose est nécessaire, non pas donner un style à son caractère, mais parvenir à être content de soi. Sachant qu'on n'est jamais content de soi au départ. Pourquoi ? Parce que on a honte. C'est ce que Nietzsche appelle. Là, j'ai été obligé d'aller un peu vite, hein, mais il y a la mort de Dieu, et puis il y a aussi l'ombre de Dieu. Dieu est mort, mais son ombre continue de couvrir nos existences. Nous ne croyons plus en Dieu, dit Nietzsche, mais les valeurs de nos existences continuent malgré tout. Nos existences continuent malgré tout d'être assombries par la morale judéo-chrétienne. Nous avons honte, nous nous sentons coupables, nous éprouvons du ressentiment, voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à la fin du livre 3, il y a toute une série d'aphorismes qui sont formulés comme une sorte de petit catéchisme. Qu'appelles-tu la liberté ? Qu'appelles-tu... Et il y a juste une question et une réponse. Où résident tes plus grands dangers ? Dans la pitié ? Qu'aimes-tu chez autrui ? Mes espérances ? Qui qualifies-tu de mauvais ? Celui qui veut toujours faire honte ? Qu'y a-t-il pour toi de plus humain ? Épargner la honte à quelqu'un ? Quel est le sceau de l'acquisition de la liberté ? Ne plus avoir honte de soi-même. Vous voyez, cette espèce de petit catéchisme, en fait, c'est une sorte de morale héroïque qui, tout à l'heure je vous disais, le dernier aphorisme, il fait toujours écho au premier. Mais là, on a une séquence d'une dizaine d'aphorismes qui font écho au premier aphorisme, l'aphorisme 108, dans lequel Nietzsche dit « Dieu est mort », mais il continue d'étendre son ombre sur nos existences. Nous devons lutter contre son ombre aussi. Et l'ombre de Dieu, c'est la honte. Voilà. Et c'est ça qui est capital, vous voyez, c'est que nous n'ayons plus honte. N'ayons pas honte de ne pas être assez forts pour donner un style à notre existence. Si nous n'avons pas cette force-là, trouvons un autre moyen d'envisager notre existence pour l'aimer et pour lui donner un sens. Voilà, c'est ça la réponse de Nietzsche. Donc l'autodiscipline, on voit bien que c'est ce que Nietzsche préfère. Hein. Pour lui, c'est la force. Mais en même temps, ce qui compte, c'est pas d'être fort ou faible. Ce qui compte, c'est, quand on est fort ou quand on est faible, de connaître et d'aimer sa vie. Vous voyez, là, il y a un très bel aphorisme. C'est l'aphorisme qui s'intitule « Deux hommes heureux ». Alors, je ne sais plus où il est. Il est au milieu, à peu près. Hein. Et dans cet aphorisme, en fait, Nietzsche compare deux hommes. Un qui réussit tout. Nietzsche dit il s'entend à l'improvisation de l'existence. Tout ce qu'il entreprend, ça marche, ça fonctionne. Et puis un autre qui est une espèce de loser qui rate tout. Tout ce qu'il entreprend est un échec. Eh bien, Nietzsche finit par dire que cet homme qui rate tout, qui ne réussit rien, il finit par aimer peut-être davantage la vie et par la connaître davantage que celui qui réussit tout. Parce que précisément, cette vie, il a été très souvent sur le point de la perdre. Et ouais, ce qui compte, c'est pas de réussir ou de ne pas réussir. Ce qui compte, c'est de connaître la vie et de l'aimer. Et on peut aimer la vie même quand on échoue. On peut aimer la vie même quand on est faible, même quand on ne réussit pas à improviser sa vie, etc. D'accord ? Oui. Ça, c'est vraiment le gai savoir. Il y a des textes ensuite où il va être beaucoup plus dur. Il va faire l'éloge de la force, sa philosophie va un peu se durcir, je dirais, se radicaliser. Dans le gai savoir, les choses sont beaucoup plus équilibrées. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui. Oui.
Sur la mort, différents types d'amour qui sont plus chers que le standard, est-ce que la comparaison entre la compassion et l'amour chrétien, c'est plus un amour de consentement, de bienveillance, est-ce que c'est ce niveau de qualité d'amour qui peut faire cette distinction par rapport à
Alors, sur le stoïcisme, c'est très étonnant de voir que le premier aphorisme et l'avant-dernier, en fait, reprennent des pensées stoïciennes. Amor fati, c'est stoïcien, l'éternel retour aussi. Hein. Voilà. Il y a un moment aussi où il reprend l'image du théâtre. En disant, mais nous sommes les poètes, c'est nous qui écrivons le texte de cette pièce de théâtre. Nous ne sommes pas seulement des comédiens, et surtout pas des spectateurs. Donc, il y a une référence au stoïcisme, mais en même temps, il y a une distance à l'égard du stoïcisme. Quand même, il y a une différence fondamentale, c'est précisément la mort de Dieu, quoi. C'est que l'acceptation stoïcienne, ou l'amour stoïcien du destin, c'est aussi un hymne à Zeus, quoi. C'est l'hymne à Zeus de Cléante, et c'est l'idée qu'il y a une rationalité intrinsèque du monde. C'est le logos qui circule, et c'est lui qui est l'objet de l'amour. Dieu n'est pas mort pour les stoïciens. Il y a l'écume, de nos existences, mais derrière tout ça, il y a un ordre dont les stoïciens sont intimement convaincus. Malgré toute l'agitation superficielle de nos existences, quoi. Et c'est cet ordre qu'il s'agit d'aimer. Forcément, il n'y a pas ça dans le gai savoir. Dans le gai savoir, la nécessité qu'il s'agit d'aimer dans les choses, c'est une nécessité qui est en fait une interprétation et qui est en fait une création. C'est la nécessité qu'on peut trouver dans une œuvre d'art. C'est le fait que dans une œuvre d'art, les choses finissent par apparaître nécessaires. Regardez tout à l'heure, je citais le 290. Regardez la formule qu'il utilise. Voilà. L'exerce, donner du style à son caractère, un art grand et rare. L'exerce celui qui embrasse du regard tout ce que sa nature offre de force et de faiblesse et intègre ensuite tout ceci à un plan artistique jusqu'à ce que chaque élément apparaisse comme art et comme raison et que même la faiblesse enchante l'œil. Vous voyez, il y a ici, dans ce rapport artistique à soi et à son existence, clairement une opération qui consiste à instaurer une sorte de nécessité d'ordre artistique, quoi. Ce qu'on appelle parfois l'intégration d'une œuvre d'art, c'est-à-dire le fait que C'est un système qui a une forte intégration, c'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on ne peut pas enlever un élément ou déplacer un élément sans modifier complètement la signification de l'ensemble. Vous voyez, c'est ce que dit, alors c'est pas du tout Nietzsche, hein, mais c'est ce que dit Dworkin, je ne sais pas si vous connaissez le philosophe américain, là, dans Une religion sans Dieu, il y a un moment où il définit la beauté par l'intégration, la forte intégration. Et il dit qu'une théorie scientifique peut être belle comme une œuvre d'art. Et que la beauté de l'œuvre d'art comme de la théorie scientifique, c'est le fait qu'encore une fois, chaque élément apparaisse comme comme indéplaçable et comme insubstituable, qu'on ne peut pas l'enlever. Voilà. C'est ça la nécessité dans les choses, en fait. Mais c'est une nécessité, encore une fois, d'ordre artistique, hein, qui suppose un plan artistique, qui suppose une création, une organisation, comme sans doute les aphorismes du gai savoir ne peuvent pas être déplacés. Il est fondamental que tel aphorisme soit à telle place particulière. De même, il y a beaucoup de textes où Nietzsche dit notre existence, il faut la mettre en scène. Il y a des choses qu'il faut réserver pour l'arrière-plan, d'autres qu'il faut mettre en avant. Il y a une métaphore théâtrale, picturale, musicale, parfois, ça dépend, hein, mais c'est traiter sa vie comme une œuvre d'art, quoi. Voilà, donc la morphatie chez les stoïciens, il n'y a pas du tout ça. C'est Dieu, le créateur, qui finalement est aimé dans le monde. Enfin, il me semble, hein, je ne suis pas spécialiste hein, du stoïcisme, mais il me semble que...
Il y a des lecteurs du stoïcisme qui rappellent la sensibilité, puisque la vision en disant que leur créateur est un homme qui est capable de etc.
Ah oui.
Alors, voilà, c'est ça qui
est... Oui.
Comme si vous faisiez une lecture,
d'accord. Mais alors, là, vous pensez à des textes dans lesquels il évoque les stoïciens, quoi.
Hein. Oui.
Mais c'est pas le cas de la phrase 276. Parce qu'il y a effectivement des textes où il évoque explicitement les stoïciens. Les stoïciens et les épicuriens, les stoïciens et les cyniques, hein, il y a tout un jeu de comparaisons. Il y a une référence au cynisme dans le gai savoir. Bah déjà l'insensé, en fait, qui se promène avec sa lanterne, c'est une manière de parodier Diogène qui dit « je cherche un homme ». Et puis, il y a un aphorisme où il dit « j'ai trouvé un nom pour ma douleur, je vais l'appeler ma chienne ». Là aussi, hein. Voilà. Et il y a un cynisme de Nietzsche, hein. Beaucoup plus qu'un stoïcisme, à mon avis. Mais bon, oui.
On ne peut pas donc interpréter, selon vous, la morphatie comme une dissolution de la subjectivité singulière.
Comme une dissolution de la subjectivité singulière. Dans quoi elle se dissoudrait
désordre,
dans quoi
l'absence de singularité, d'individuation, si on veut reprendre le terme de Schopenhauer.
Oui, qu'on trouve dans la naissance de la tragédie. Je crois pas, je pense
non.
Pas. Au contraire, je pense vraiment que... Alors, cette hypothèse d'une dissolution de la subjectivité singulière, on la trouvera plutôt dans l'aphorisme suivant. Dans l'aphorisme suivant, dans le 277, Nietzsche dit « Il y a des moments dans la vie où tout paraît nous réussir tellement, où la vie paraît avoir tellement de sens, qu'on se met à croire en une providence personnelle. À imaginer qu'il y a une force comme ça, surnaturelle, qui fait tout pour que tout se passe bien pour nous. » Et à ce moment-là, il dit ben, « C'est une aliénation, c'est la pire des aliénations, et il faut lui opposer une pensée, la pensée du hasard. » Et dire que il y a le hasard qui joue avec nous. La vie est une improvisation. Je suis en train de jouer la musique de mon existence. Il se trouve que la mélodie me paraît d'une rare perfection, mais c'est le hasard qui joue avec moi. En fait, on voit bien que chez Nietzsche, il y a une espèce de jeu qui se met en place entre différentes pensées. C'est-à-dire la morphatie, l'amour du destin, peut me conduire à la croyance en une sorte de rationalité du destin. Ce ne serait pas moi, ce serait quelqu'un qui veillerait sur moi, etc. Cette pensée va m'aliéner, je vais perdre ma liberté. Donc il faut que je lui oppose une autre pensée, celle du hasard, pour conserver ma liberté tout en aimant mon destin. Mais il me semble que l'idée de destin, elle est indissociable de l'idée, premièrement, qu'il s'agit d'abord de s'aimer soi-même, comme il est dit à la fin de l'aphorisme 334, que soi-même, c'est d'abord un individu. Là, vous voyez, il y a, c'est dans Aurore, hein, mais dans Aurore, il y a tout un ensemble d'aphorismes qui sont consacrés à l'individu. Et dans lesquels Nietzsche dit que l'individu, c'est ce qui fait peur. C'est le danger de tous les dangers, et qu'on vit dans une société qui cherche à nous transformer en grains de sable. C'est, je ne sais plus, l'aphorisme 174, je crois, où il dit que c'est une société commerçante et on vise à nous lisser, nous polir, de manière à ce que toutes nos petites différences individuelles, toutes nos aspérités disparaissent. On transforme l'humanité en grain de sable. Voilà. Et l'individu, c'est le danger de tous les dangers. Voilà. L'esprit libre, c'est d'abord celui qui sait pourquoi il agit, et c'est celui qui agit de façon individuelle. Agir de manière traditionnelle, dit Nietzsche dans Aurore, et c'est précisément ce que ne font pas les esprits libres, c'est agir pour la simple raison que l'on a peur d'agir autrement. Qu'on a peur de ne pas agir comme les autres. Qu'on a peur d'agir en individu. Et vous voyez, quand Nietzsche dit dans l'aphorisme 283 ou 289, je ne sais plus, vivre dangereusement, bâtissez vos villes sur le Vésuve, au pied du Vésuve, dangereusement, ça veut d'abord dire de manière individuelle, quoi. Sans conformisme, sans ce qu'il va appeler ensuite la morale grégaire, sans se polir de manière à être comme les autres, en assumant son étrangeté. Vous voyez là, dans la phrase 334, ce que je dois aimer, ce que je dois apprendre à entendre, à supporter et à aimer, c'est l'étrangeté de la musique. C'est ma propre étrangeté. C'est ce qui fait de moi celui que je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui est radicalement distinct de tous les autres. Quoi. Et ça, cette étrangeté, je ne vois pas bien comment il pourrait aspirer à la dissoudre, étant donné que c'est elle qui va me permettre de triompher de l'ombre de Dieu. Ouais, c'est elle qui va émerger de la honte, qui va s'affirmer. Ouais, c'est une morale de l'affirmation de soi, quand même, hein. La morale du gai savoir. Donc, le fatum dont il est question ici, c'est un fatum que je crée, et c'est d'abord ma vie à moi, mon existence à moi, quoi, avec son étrangeté et sa singularité. Hein. Voilà. Mais bon, c'est une discussion. Hein. Oui.
Juste une question. Il est parfois
question de
la guerre. Oui. Et ils semblent mettre en avant la guerre pour faire critiquer les penseurs qui cherchent la sérénité.
Oui. Oui, oui.
Alors, s'il faut prendre la guerre au sens métaphorique, quelque chose qui s'intègre un peu dans la montée de puissance, c'est vraiment la guerre au sens strict.
Au sens strict, bon, Nietzsche a fait la guerre, hein, il était infirmier en 1870, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il est tout de suite tombé malade. Non, c'est comme toujours chez Nietzsche, hein, c'est comme la maladie. Hein, la maladie, c'est la maladie, mais c'est aussi autre chose que la maladie. Enfin, c'est toujours la guerre. Il en parle, par exemple, dans l'aphorisme 324. Vous voyez, quand il dit « avec ce principe au cœur, la vie comme moyen de la connaissance, on peut gaiement rire et gaiement vivre, mais on ne pourrait pas rire gaiement sans avoir gaiement guerroyé. Il faut avoir fait la guerre avant pour un... Voilà. En fait, alors, premier élément de réponse, la guerre, c'est le contraire de la paix. La paix, ce serait ce à quoi on aspire quand on ne supporte plus les conflits et les tensions de son existence. Vous voyez, c'est toute cette lecture du romantisme ou du pessimisme, ce que Nietzsche appelle le pessimisme romantique dans l'aphorisme 370. C'est une aspiration à l'ataraxie, quoi, des piqûres, hein, une aspiration à ne plus être troublé, à ne plus souffrir, parce qu'on supporte plus toute cette souffrance. Voilà, c'est un désir de paix qui est la conséquence d'une certaine pauvreté, en fait, physiologique. D'une certaine fatigue, d'une certaine lassitude, d'un manque de force de vivre, hein, pour utiliser le terme qui est si important cette année. Voilà. Donc, quand il parle de guerre, il vise aussi à célébrer une attitude qui ne cherche pas ce type de paix. Voilà. Et puis ensuite. La guerre, bah, c'est aussi l'existence elle-même. C'est-à-dire que pour Nietzsche, nous sommes en guerre permanente avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a en nous des pulsions, des instincts qui mènent un combat permanent, les uns avec les autres, pour s'imposer. Et c'est la définition de la passion. La passion, c'est un instinct qui est devenu tellement fort qu'il s'impose à tous les autres. Et qu'il conduit au sacrifice de tous les autres. Voilà. Et il y a une sorte de conflit, de combat permanent des pulsions et des instincts qu'il faut aussi assumer, hein, et qui va se traduire par le perspectivisme, par le changement de point de vue, par la multiplicité des aphorismes, etc. C'est aussi ça la guerre, je pense, hein. Voilà. Et puis, c'est la volonté de puissance qui a besoin d'opposition, quoi. La paix, ça conduit à une extinction progressive de la puissance, quoi. La puissance ne peut exister sans s'intensifier et sans une forme de conflit. Alors, après, il y a un texte qui est un texte de Genèse de Nietzsche, hein, la Joute d'Homère, dans lequel Nietzsche oppose deux types de conflits. Il y a la lutte à mort, ou bien il y a ce qu'il appelle la joute. La joute, c'est en fait un combat permanent, quoi, qui consiste à aimer ce que l'on combat. Ouais, c'est de cette façon-là qu'il a pu combattre Wagner, ou le christianisme. Ou... En fait, il n'a cessé de les aimer, hein. Mais il les a combattus. Il a combattu tout ce qu'il aimait, mais je pense qu'il a toujours aimé ce qu'il avait combattu. Voilà. Et c'est cette guerre-là, oui. Donc c'est pas une guerre au sens trop banal du terme, quoi. Voilà. Oui. S'il y en a juste un, c'est bien. Hein. Oui. Oui. Alors, c'est vrai que c'est une recherche, je ne sais pas si Nietzsche dirait de l'objectivité, mais c'est une recherche de la réalité, ou de la vérité, si vous voulez. Simplement, pour Nietzsche, il est probable, mais évidemment, on ne peut pas en avoir la certitude, il est probable que la vérité soit insupportable. C'est-à-dire que la vérité, mais là je mets des guillemets, parce que précisément parce qu'il est probable qu'elle est insupportable, personne n'est là pour l'affirmer et pour le confirmer. Il est probable que la vérité, c'est que la vie est absurde. C'est que la vie est un écoulement. Vous voyez, il utilise très souvent l'image du fleuve héraclitéen, tout coule, tout s'écoule. La vie est un écoulement permanent, et la réalité est un écoulement permanent. Et en fait, si nous avions cette vérité toujours à l'esprit, nous ne pourrions pas exister. Notre vie serait littéralement insupportable. Et dans « Par-delà bien et mal », il y a un texte dans lequel Nietzsche explique que nous avons besoin de couper la vérité. Vous voyez, comme on coupe un médicament ou une drogue, parce que la vérité pure serait littéralement invivable et insupportable. Donc nous coupons la vérité avec des illusions, avec de l'art, de la philosophie, de la religion, voilà, du rêve. C'est sans doute impossible, selon Nietzsche, de, d'atteindre la vérité. Mais la passion de la connaissance, c'est l'aspiration à cette vérité. D'accord ? Avec aussi le sentiment que, premièrement, cette vérité, on ne l'atteindra jamais, et que, deuxièmement, si on l'atteint, c'est la mort. Oui, on va dire que c'est le schéma même de la passion. L'amour rend malheureux. Et il n'y a pas de plus grande preuve de l'amour ou de plus grande manière de montrer la vérité de son amour que d'être le plus malheureux possible, quoi. Et d'être malheureux jusqu'à en mourir. Multiplier les perspectives, aimer sa maladie parce que sa maladie c'est une occasion d'expérimenter des aspects de l'existence qu'on n'expérimente pas sinon, c'est une manière quand même tragique d'envisager son existence, quoi. Alors c'est pas exactement l'objectivité, mais vous voyez, il y a la recherche de quelque chose. C'est pas non plus une transcendance, hein. C'est ni une vérité transcendante ni une vérité objective, c'est la réalité, quoi. Mais une réalité qui ne serait pas mise en forme, qui ne serait pas interprétée, en fait. Voilà. Et à partir du moment où on interprète, il y a un biais. À partir du moment où on adopte une perspective sur le monde, on a une manière de l'envisager relativement à son existence. Donc il y a une subjectivité, là. Hein. On lui donne d'une manière ou d'une autre un sens. Voilà. Et on ne peut pas, quand Nietzsche dit « tout est perspective », il veut tout simplement dire que connaître sans avoir besoin d'adopter une perspective pour connaître, c'est mourir, quoi. Hein, c'est pas, on peut pas, donc c'est peut-être pas connaître du tout. Si on est comme Socrate, on dit très bien. Nietzsche ne semble pas se réjouir de la mort comme du moment où, effectivement, il pourra vraiment connaître ce qu'il ne connaissait pas aussi entièrement avant, quoi. Voilà. Mais c'est une question très difficile, hein, de savoir ce que c'est que la vérité pour Nietzsche. Il met très souvent des guillemets, en fait. Quand il met des guillemets, en fait, souvent ce qu'il veut dire, c'est que la vérité dont il parle, c'est ce qu'on appelle vérité. Donc, comme il le dit dans un texte de Jeunesse, en fait, c'est comme une pièce de monnaie dont l'effigie s'est effacée et on a l'impression que c'est de l'or. Donc on ne voit pas que la vérité c'est comme une métaphore, en fait. C'est-à-dire c'est une création, c'est une théorie, c'est une construction. Et cette construction, elle s'est tellement imposée dans le temps, on s'est tellement habitué à elle qu'on a l'impression que c'est la réalité, que c'est naturel, que voilà. Et on oublie qu'il y a eu une construction derrière. Voilà, comme la pièce de monnaie qui s'est l'effigie s'est effacée. Et c'est ça qu'il appelle vérité avec des guillemets. Mais c'est pas la vérité, en fait. C'est une théorie, quoi.
C'est pour ça qu'il n'est pas stoïcien non plus. Les stoïciens disaient, regarde, finalement, ça fait tout le sens, ça fait que je cherche
à parler. Oui, tout à fait.
Ouais. Les choses à justement leur réalité crue, alors que là, il faut
quand même. Oui, il n'y a pas du tout le déchiffrement des signes comme il y a chez les stoïciens. Ouais.
Et du coup, est-ce qu'on pourrait interpréter la mort pratique comme une sorte de réconciliation quand même avec le tragique de l'existence? C'est-à-dire qu'on traverse ce tragique, un petit peu comme chez Hegel, le monde négatif. Il faut apprendre à ne pas dépasser, mais à apprivoiser ou à accepter. Est-ce que la mort pratique, ça ne serait pas une sorte de réconciliation?
Oui. Mais alors, c'est un tragique qui doit être aussi un tragique joyeux.
Comme l'enfant, en fait.
Comme l'enfant, ouais. Ok. Oui. C'est-à-dire, il faut aussi rire. Et c'est vrai que dans une tragédie, on ne rit pas beaucoup. Mais la tragédie, enfin, c'est comme ça que Nietzsche l'interprétait dans La naissance de la tragédie. La tragédie, elle met en scène l'absurdité et l'atrocité de l'existence et en même temps elle lui donne un sens. Donc c'est une manière, encore une fois, d'affirmer le sens et la valeur de l'existence. La vie vaut la peine d'être vécue. Alors ça paraît curieux parce que ce qu'on voit dans une tragédie, c'est une vie qui est broyée par son destin, mais il n'empêche que ça donne un sens quand même à la vie, quoi. Le gai savoir, c'est quand on dit la même chose mais tout en riant, quoi. pleurer tout en disant bah oui, c'est une tragédie, c'est comme ça. Et puis en même temps, c'est une perspective qu'on adopte sur l'existence, une manière de la concevoir. On peut imaginer d'autres pensées, on peut voir les choses autrement.
D'ailleurs, dans la trilogie grecque, il y avait toujours une quatrième pièce qui était une satire.
Tout à fait, bah, oui. C'est sûr. Bah, c'est moi qui vous remercie. Hein. C'est moi qui vous remercie. Il faut que j'éteigne le... Bon, j'y suis pas...
J'ai du mal à rentrer vraiment dans le texte de Nietzsche. Oui. Et quand on est face au texte, en fait, on ne sait pas par quel bout on prend. On a vraiment besoin d'être un peu.
Là, il y avait beaucoup de camions.
Alors oui, je crois qu'il y avait. C'était mixte. Moi, je les ai pas. J'ai des premières années. Il y en avait quelques-uns. Ouais. C'est-à-dire que comme on leur a dit, il n'y a que 30-30, du coup, il y avait presque une jauge un peu moins grande. Il y avait quelques élèves de classe scientifique, je pense, avec quelques élèves, toi.
Voilà. Oui, il y en avait plein qui voulaient venir, mais comme c'était limité à 30, Thomas m'a fait la guerre en disant, rien qu'avec moi, il y en avait 45 qui avaient levé la main. Ouais, non. Et du coup, j'aurais dit, bah, finalement,
c'est vrai que c'est pas bien.
Donc, il n'y en avait que 3 qui voulaient.
J'espère que tu vas me voir après.
C'est vrai.
Je ne sais pas si c'était vraiment... adapté.
Ah, oui. Non, c'était vraiment.
Mais vous avez des prépas scientifiques aussi.
On prend possession des lieux. Non, mais parce qu'en fait, ils sont un peu trop nombreux pour le foyer. Et du coup, il faut qu'on ait plus d'espace avec la situation actuelle. Il faut quand même s'étaler un peu plus.
Et vous n'avez pas des masques de théâtre. Vous avez des masques.
Oui, mais voilà. On a envie d'avoir des masques.
Je sais pas où c'est en fait.
Bon, on va.
C'est ce qu'il m'a dit, parce que c'est pas le bon format.